Dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique. C'est parti. J'ai raté mon intro d'Az.
Ouais.
Je l'ai fait une deuxième fois.
C'est très rare. Hein.
C'est rare, non tu, parce ouais. qu'à chaque fois, tu vois que l'invité, les rares fois où je me plante sur l'intro, je me dis, il va penser que je suis nul.
Non,
Tu affirmes qu'effectivement, je rate rarement mon introduction.
Très rarement. En plus, l'invité ne peut pas penser ça parce qu'on est quand même à la 49e.
C'est vrai.
De DLT.
C'est
donc,
vrai.
Tu ne peux pas te tromper 49 fois. Tu peux tromper une fois 49.
Ouais,
voilà.
Okay.
Tu vois.
Tu sais qui on reçoit aujourd'hui, d'Az?
Eh bien, oui. Oui,
c'est
je le sais. Oui, je le sais.
Ah bah présente-le nous.
Et je m'en félicite. Nous recevons Césaire, le fondateur du label Roche Music. Comment tu vas?
Ça va impeccable.
Ouais, ouais. Tranquille.
Super.
Merci beaucoup d'être avec nous, Césaire. Tu sais, dans cette émission, on reçoit beaucoup d'invités. On parle de plein de professions autour de la musique. On reçoit des artistes aussi. Tous les domaines de la musique nous intéressent. Et toi, bah, tu as une expérience particulière, puisque comme le disait Daz, tu es boss d'un label. En parallèle, en plus, t'es artiste. Tu releases régulièrement des EP, des singles, etc. sur ton propre label.
Ouais.
C'est intéressant d'ailleurs, ça, comme... c'est pas mal comme plan. Tu vois, quand t'es musicien, ouais. tu crées ton propre label, tu sors tes propres trucs.
Mais les plus grands, c'est ce qu'ils ont fait.
C'est vrai en plus.
Regarde Prince, il a fait exactement ça.
T'es en train de dire que Césaire est un peu le Prince français?
Eh ben pourquoi pas.
C'est trop de pression, les gars.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mais écoute, pourquoi pas? En tout cas, oui, Césaire. Roche Music, label lancé autour de 2011-2012.
C'est ça.
Vous fêtez là depuis quelques mois vos 10 ans d'expérience, ouais. avec une jolie équipe d'artistes quand même qui t'entoure, puisqu'on retrouve FKJ, Darius, Double, Timmer, et de nombreux autres qu'on évoquera dans le cadre de l'émission. Ce qu'on avait envie de faire, c'était à la fois pour découvrir ce que c'est que de... mener un label, qu'est-ce que c'est comme métier. On s'est dit même qu'on allait globalement retracer un peu votre histoire sur ces 10 ans, revenir un peu sur les débuts, quelles sont, tu vois, les exigences au début, comment vous êtes lancé, etc. Ensuite, le développement, notamment aussi les aspects artistiques, l'esthétique, la DA, etc. Mais également tout ce qui est business, parce que j'imagine qu'il faut s'entourer quand on souhaite se professionnaliser avec un label. Puis enfin, comment perdurer, notamment en évoquant peut-être la période actuelle, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir, etc. Ça te convient, ça?
C'est un bon sommaire, j'adore.
Parfait.
Déjà, 10 ans d'existence, c'est pas rien, quand même. Hein.
Mais c'est une belle aventure. Tu dois être fier, non?
Ouais, carrément. C'est vrai que quand tu commences, c'est vrai que les gens te disent un label indépendant, quelle idée. Et de voir que ça fait 10 ans, bon, 11 ans.
Ouais.
On a un peu triché. c'est gratifiant. Mais on voit que. Et c'est pas fini.
Ouais.
Et. En fait, c'est la passion et on va essayer de tenir encore plus longtemps.
Est-ce que ça te va quand on parle de label de surtout axé sur la musique électronique ou tu trouves ça trop limitant comme définition?
Ouais, c'est trop limitant. Je pense que musicalement, on est plus dans un délire de groove. Donc le groove, pour moi, ça englobe pas mal de choses. Le R&B, le hip-hop, la funk, le disco aussi.
Ouais.
L'électro, pour nous, c'est un médium en fait qui permet de catalyser toute cette musique. Et de la produire, parce que nous, on utilise principalement des ordinateurs, on rajoute peu à peu des instruments un peu plus organiques. Donc électronique, je sais pas, c'est un peu galvaudé comme expression, mais on a un pied dedans, mais on n'est pas que là-dedans en fait, on est assez volatile.
En vrai... toutes les musiques sont électroniques en plus. C'est très réduit.
Aujourd'hui,
c'est vrai dans la façon de la produire, mais globalement, on arrive à peu près à s'accorder quand on parle de musique électronique. C'est une musique dont les sonorités proviennent directement des machines, avec des synthétiseurs, etc. Enfin, tu vois, on a tous une idée.
On m'a dit ça, on m'a dit Roche Music, musique électronique. Je dis non. Enfin, tu vois, c'est un
vrai débat. En même temps, quand tu prends du Cartel, du Darius, du Zimmer, on est dans la musique électronique quand même en l'occurrence.
Ouais. Oui, plus. Et encore Cartel, le prochain album va être très 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 acoustique.
Okay.
Mais j'aurais du mal à dire est-ce que Double et
c'est vrai que plus
et électronique en sachant qu'il utilise que des synthés, des boîtes à rythme. Est-ce que la funk est électronique?
L'électro-funk l'est, et c'est une des grandes inspirations quand même de Double, à mon sens.
En fait, l'électro-funk, c'était quoi? C'était Grandmaster Flash, c'était...
On peut le voir comme ça, effectivement.
Et tout ça, les groupes de funk aussi, de Boogie.
Afrika Bambaataa.
Ouais, les groupes de Boogie avaient les mêmes instruments que Afrika Bambaataa. Et donc, je sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'ils avaient des guitares, des basses, peut-être qu'ils mélangent un peu plus les autres instruments. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'un instrument, un synthétiseur, ça reste un instrument.
Ouais.
Ouais, je pense que c'est les guitares, les basses, les pianos, mais les synthés, c'est peut-être ça qui fait le côté électronique, je sais pas.
C'est
un débat. On est ouvert, mais.
Je pense que les drums jouent beaucoup aussi sur le type de drums que tu utilises, tu vois.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Ouais.
Mais en fait, aujourd'hui, je trouve que ce qui est plus électronique, limite, c'est de faire sur son ordinateur. Donc, tout ce qui est EDM,
ouais.
Ça est plus électronique qu'une boîte à rythme. Je trouve qu'aujourd'hui, la boîte à rythme, en fait, c'est devenu tellement un.
C'est limite un instrument.
Un objet, c'est devenu un instrument à part entière, parce qu'il y a une sonorité, il y a un truc. Et je sais pas. Je pense que c'est une histoire de période, de momentum, qui fait qu'on va donner tel nom à telle chose. Électronique, il y a un côté un peu futuriste aussi.
Ouais.
Voilà, question à creuser, je pense.
Écoute, un jour, on fera un DLT sur qu'est-ce que la musique électronique.
Une émission de 8 heures.
Je sais pas qui a
c'est un sujet de philo aussi.
Mais absolument. Hein,
en vrai.
C'est vrai.
Puisque toutes les musiques sont électroniques désormais. Donc
À partir du moment où c'est enregistré en numérique, on pourrait considérer ça. Mais bon, enfin. C'est pas l'idée que je m'en fais comme culturellement. Tu vois, il y a une histoire. En fait, il y a aussi un patrimoine de la musique électronique autour de la house, de la techno, de l'électro. Tu vois, avec des cultures spécifiques
oui,
et qui partagent. Le club aussi a une importance.
Moi, je suis d'accord. Mais alors, si on reste sur. Si ta musique est intégralement produite par une machine et ou un ordinateur, elle est électronique, bah donc le hip-hop est une musique électronique.
Non mais justement, c'est pour ça que je te disais, je rajoutais quand même une couche culturelle à tout ça. Tu vois, je pense qu'il y a des spécificités, des réseaux spécifiques. Bon, c'est un vrai débat qu'on aura
après,
une fois.
Mais c'est juste que je pense qu'il y a des mots fourre-tout, on va dire, qui permettent d'exprimer... globalement une scène entière.
Ouais.
Je pense qu'électronique, c'est quelque chose qui permet d'expliquer un peu... Par exemple, à mes parents, je fais l'électro. Cherchez pas. Voilà.
Voilà. Ouais.
Voilà. Si je fais de la techno, de la house, en fait, tu peux rentrer encore plus profondément dans le truc, le spectre. Et je pense qu'il y a tellement de choses qui rentrent dans l'électro que c'est.
Mais d'ailleurs, les termes sont toujours intéressants parce que typiquement, tu utilises le terme électro comme synonyme de musique électronique. Ce qui historiquement n'était pas forcément le cas. L'électro, c'était.
Je voulais juste faire un raccourci pour aller plus vite. Mais
c'est intéressant parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, on parle d'électro pour parler de musique électronique de manière générale, de plus en plus. En fait, c'est pas une faute en tant que telle, c'est juste qu'il y a un changement sémantique. Mais c'est vrai qu'historiquement, dans l'histoire de la musique, c'était un courant spécifique des musiques électroniques, l'électro, justement, issu de l'électro-funk, il y a eu l'électro-clash, il y a eu des trucs comme ça, etc.
Puis il y a eu le crotrock aussi, c'est le premier, mais qui vient du rock, du coup.
Ouais, c'est vrai.
Et ça part de ça et des musiques répétitives. J'ai plus les noms en tête, mais dans le classique.
Steve Reich,
voilà, c'est ça. Et on part quand même de musique, d'instruments. Très organique pour créer quelque chose de répétitif et aller sur de l'électronique. Enfin, il y a un cheminement qui prend ses racines dans quelque chose de très organique et qui peut-être revient par la suite dedans.
Ouais.
Enfin, c'est un mélange, en fait, tout se mélange et c'est ça qui est beau dans la musique, c'est qu'il y a vraiment des. Tous les genres. Enfin, les gens, au bout d'un moment, ils ne veulent plus rien dire, ils explosent. Le hip-hop aujourd'hui, c'est.
Ouais, c'est très hybride.
C'est hybride, quoi.
Ouais.
On pourrait même rajouter. Bon, alors là, on démarre le podcast. On est encore dans l'introduction, je sais pas, mais peu importe, la discussion est intéressante. On pourrait même ajouter dans tout ça la notion de dance music, par exemple, qui est beaucoup plus utilisée par les anglo-saxons. Par exemple, vous, j'ai l'impression que vous vous inscrivez dans la dance music. Alors, et la musique électronique aussi. Il peut y avoir de la dance music qui n'est pas musique électronique. Typiquement, le disco, on pourrait l'intégrer dans la dance music. Et d'ailleurs, ça a énormément inspiré la musique électronique derrière. Ça, par exemple, c'est un truc que vous pourriez revendiquer, la dance music. Le fait que c'est aussi de la musique faite pour. Danser ou en tout cas être écouté en club.
La dance aussi, c'est vachement connoté Dr Alban.
Non, alors ça, c'est l'eurodance pour moi, tu vois. Déjà, je fais une différence.
Après, il y a l'EDM aussi, mais l'EDM, il y a aussi plein de trucs qui sont un peu dégueux.
Ouais.
Enfin, mon goût, désolé.
Ouais.
On citera pas de nom.
Non. Okay. Mais il y a des trucs qui sont en festival qu'on peut pas écouter, nous. Mais c'est pour ça que moi, j'ai défini Roche par le groove.
Ouais.
Ça nous correspond mieux et plus un état d'esprit. En fait, la musique qu'on fait, c'est dur de la nommer par le style, mais par l'état d'esprit et l'envie qu'on a derrière, c'est plus simple de dire le groove.
Ouais.
Parce que je trouve que les styles, c'est trop réducteur. Et puis, typiquement, dans le label, on est tellement influencé par plein de choses que ce serait dur de nous mettre dans une case.
Est-ce que derrière l'idée du groove, il y a en gros tout ce qui s'inspire ou qui dérive de la soul et du funk? Ça tirait, c'est ça un peu derrière l'idée
mais
du groove.
Je pense que c'est con, mais même dans la techno, tu peux trouver du groove.
Ouais.
En fait, le groove, pour moi, c'est plus dans la rythmique, dans la rythmique, dans le placement des synthés, placement des basses, des hi-hats. Mmh. C'est plus ça. Et du coup, ça, tu le trouves de partout. Mmh. Tu vois, dans le hip-hop, t'as Jay Dilla. Mmh. Dans le disco, bon, c'est un truc qui est assez classique, mais tu le trouves dans chaque style. Dans la techno, je pourrais pas te citer parce que je suis pas assez
c'est
cultivé
étonnant
là-dedans.
Parce que là on se lance vraiment dans des débats quasi philosophiques, comme tu le disais. Mais souvent, ce qu'on dit, c'est que la notion de groove vient aussi, est souvent liée au jeu humain, dans le sens où justement, il n'y a pas le truc parfaitement carré, où on tombe exactement sur le temps, etc. Ouais. Et que c'est le côté un peu plus claudiquant, un peu plus imprécis d'une certaine façon, mais quand même maîtrisé, qui permet de créer justement ce balancement spécifique que serait le groove.
Tu vois, donc Jay-Z, il est complètement dedans, du coup.
Absolument.
Il faisait en sorte justement d'être à contre-temps.
Et est-ce qu'il ne... Alors qu'en fait, il y a plein de types de techno, hein, mais ce qui... ce que tu assimiles pas forcément à la techno, où tu te dis, ok, il y a le kick qui tombe sur le temps, la snare pareil, etc. Mmh. Tu vois, c'est très droit, entre guillemets, comme musique, ce qui va pas forcément avec le groove en théorie. Mmh. Mais en même temps, peut-être que si on a une basse, tu vois, un peu d'ensemble
dans
dessus.
Le disco, Neil Rogers, c'est très groovy, quoi.
Ah, c'est certain.
Ouais, Funkadelic, très groovy.
Oui, Parliament, tout ça.
Parliament, mais du coup, Parliament, c'était peut-être moins carré que la disco, mais. Mmh. Mais les deux ont un groove particulier et ça, c'est intéressant.
En tout cas, c'est intéressant comment chacun on se réapproprie un peu les termes, parfois on peut se mettre d'accord aussi,
le groove,
etc.
En fait, rappelez-vous même qu'à un moment donné, c'était une catégorie dans les victoires de la musique quand tu ne savais pas quoi foutre.
C'est vrai, c'est vrai.
Catégorie musique, groove.
R&B, rap, etc.
Ouais, ils mettaient tout là-dedans, groove musique, vas-y, ça bouge, ça swing.
C'était les prémices de musique urbaine.
Ouais, c'était ça, c'était musique urbaine avant la musique urbaine. Ouais. Musique groove, musique du monde.
Bon, après cette introduction
très philosophique,
droite au but, qui est particulièrement intéressante, j'ai quand même pas fait un petit point rapidement sur toi, sur ton profil, rappeler que tu es originaire de Vouvray, près de Tours.
Alors, ouais, j'étais au collège de Vouvray.
Ok.
Donc, mais je viens d'un petit bled à côté, quoi, en Touraine.
Ok. Voilà. Tu débarques à Paris, passionné de sport, mais tu t'intéresses aussi beaucoup à la musique. Avant de monter Roche, comme je le disais, vers 2011-2012, des expériences précédentes avec deux labels que tu as tenté de lancer, c'est ça, dans un premier temps ?
Donc au tout début, moi j'étais vraiment dans le sport, le basket, ligament croisé, tu connais.
Tu connais.
Voilà. Et j'ai... Pendant cette période de convalescence, j'ai pensé un peu à mon futur et je me suis plus en plus impliqué dans la musique parce que j'avais déjà un blog au lycée en fait qui s'appelait Boule à Facettes, qui m'avait permis de faire des événements à Paris et j'ai vu un peu cette culture club qui n'existait pas chez moi, c'était pas la même. Moi, la culture club, c'était saxo sur de l'électro, c'était un autre délire. Et là, j'ai découvert vraiment un monde à part entière. Et donc, avec ces gens de ce blog, j'ai monté un premier label. On était 8 dessus. Donc, autant dire que c'était dur de faire valoir un peu son avis là-dedans. Mais c'était une super expérience. On a fait nos premières releases. On était au lycée, fin du lycée, quoi. Donc, super intéressant. Et puis, je me suis vu vivre de ça, en fait. À ce moment-là, je me visualisais... travailler dans cet environnement. Mmh. Donc ensuite, je suis arrivé à Paris. On a continué un peu cette histoire de blog. Mais malheureusement, chacun a dû faire son chemin. Et moi, j'ai persévéré. J'ai monté un label avec un collègue qui s'appelle Nicolas Pinault, qui s'appelle Zapruder Records. Okay. Donc aujourd'hui, Nicolas Pinault a monté une boîte de distrib. Moi, du coup, j'ai monté le label Roche Music suite à ça. Parce que je voulais, en fait, ces deux expériences m'ont appris que je voulais faire mon truc à moi avec ma direction artistique.
Mmh. C'était vraiment... Enfin, il y avait un gros contraste entre ce que toi, tu voyais et les autres avec qui t'évoluais sur ton premier label.
Ouais, pas mal, pas mal. Mais ça m'a influencé au final. Mmh. Parce que moi, globalement, mon background, c'est hip-hop, vraiment hip-hop, de la funk aussi, mais beaucoup de sons anglais. Donc, à un moment, quand j'ai lancé le label... J'ai plus fait un choix vers quelque chose de plus house. Rien à voir, en fait. Mmh. J'ai pris un autre chemin. J'étais une période de ma vie où j'écoutais beaucoup de house. Mais j'étais aussi encore penché sur la funk, un peu sur hip-hop. Je sais pas, j'étais un peu hybride. Donc, j'arrivais pas à trouver un... En fait, j'avais pas assez de recul ou peut-être qu'on n'était pas assez loin dans le temps pour pouvoir se dire, je peux faire un label qui défend plusieurs styles de musique. Il y a eu Headbanger, franchement, qui a pavé le chemin, on va dire.
On vous a souvent, alors plus tard, après la création du label, hein, assimilé un peu à une forme de French Touch 3.0 et à Headbanger, hein, dans le côté clic, tu vois, au groupe.
Après, franchement, moi, s'il y a un truc que j'ai retenu, en tout cas du basket, c'est cet esprit d'équipe, en fait. Donc, j'ai créé le label avec en tête l'envie de créer une équipe de super-héros, on va dire, tu vois. Et ouais, et Headbanger, ils avaient un peu ce truc-là, où l'image était bien travaillée. Mais comme je disais en off, moi j'aimais bien Death Row Records. Mm. Et chaque personnage était important. J'aimais le Wu-Tang aussi, où chaque rappeur avait son identité, son style.
Sauf You God.
Sauf You God.
Mais, bon, c'est pas You God,
mais déjà, il faut être là. Et il était là.
Il était là. Enfin, il était là un petit peu, parce qu'après, il est parti en tôle, mais il était
là. C'est
vrai,
c'est vrai. Mais voilà, j'aimais ce côté un peu romanesque.
Et d'une grosse clique.
Et d'une aventure même en commun.
Pour chacun en France, moi, c'était le Mystère Amer aussi.
Ouais, bien sûr.
Je trouvais stylé avec Doc Gineco et consorts, Passy.
Stomy.
Stomy, bien sûr. J'allais oublier Stomy. Enfin, j'aimais ces identités-là, le 113. Ouais. Enfin, j'aimais ce sort de crew.
Mais alors, attention, parce que. Les groupes que tu cites, donc c'était des groupes avec plusieurs têtes à l'intérieur, mais c'était aussi des groupes qui s'entouraient d'autres groupes, tu vois. Quand on parle du Ministère Amer, c'était le secteur A, avec Arsenic, avec Ahmed Day, etc. Pareil pour le 113, c'était la Machia Quinfri. Toi, t'as aussi cette approche-là sur Roche, c'est-à-dire avoir en plus des gens qui sont directement avec vous, d'autres avec lesquels il y a des accointances, des...
Donc tu parles des artistes, du coup ?
Ouais.
Bah... En vrai, le fait est que dans la musique que l'on défendait, la musique se faisait en solo. Mmh. Donc, il n'y avait pas de chanteur, pas de rappeur. Mmh. Donc c'était une autre façon de faire. Et puis nous, on est arrivé avec un délire, c'est un ordi et on fait nos prods tout seul sur l'ordi, en fait. Et ça sort de là et c'est vendu, en fait. Donc il y avait un truc un peu solitaire, en fait. Solitude, plus solitaire. Ouais. Et en fait, je suis arrivé dans ce milieu et tous les producteurs étaient seuls. Donc moi, j'ai eu l'idée de ramener tout le monde, ce qui a aussi aidé à avoir une signature sonore, en fait, parce qu'on se côtoyait tout le temps. À un moment, on a eu un studio en commun qu'on partageait et on se retrouvait donc à se partager nos nouveaux sons, à collaborer. On a essayé de créer ce truc. Mmh. On fait du son ensemble, on crée un son spécial. Qui est à nous, et voilà, et ça a pris comme ça, en fait, au début.
On va revenir sur tout ça. Je termine quand même ta présentation en indiquant que tu es aussi DJ, producteur, 2 EP à ton actif, 16 The Day en 2016 et Attraction en 2019.
C'est ça.
Ça va être un point aussi intéressant, tu vois, parce que si je dis pas de bêtises, ça arrive plutôt après le lancement du label, vraiment où te lancer à fond dans la production musicale, etc. Peut-être que d'ailleurs cet environnement t'a donné envie de produire plus, je sais pas.
En fait, j'avais déjà commencé
un
petit peu. Je faisais du son sur Fruity Loops pour le délire. Ça commençait à prendre, en fait. Le jour où j'ai changé un peu de pseudo pour m'appeler Césaire, ça a pris. Mais en fait, le label a pris le pas. Mmh. Et en fait, j'ai vu que j'avais beaucoup plus de talent autour de moi. Et que ce talent méritait d'être mis en lumière. Et je savais que dans tous les cas, en fait, si eux, ils marchaient, j'allais aussi, moi, marcher. Et puis j'ai appris beaucoup avec eux. Et puis j'étais pas mûr pour faire que de la musique. Alors qu'eux, ils l'étaient plus que moi. Ils étaient...
C'est une forme de sagesse à être conscient de ça sur le moment. De se dire, peut-être que pour l'instant, là où ils en sont, ils sont plus forts que moi, entre guillemets. Je vais essayer de plutôt les valoriser et on verra ensuite pour moi.
Ah, c'est gentil, mais je pense que j'ai vu un potentiel dans ces gens-là et dans cette histoire de label, et que ça m'intéressait de le faire aussi. Ouais. Cette histoire de fédérer une équipe et de marcher en avant. Et puis ça aide de ne pas être aussi soi-même musicien, pour pas qu'il y ait de l'ego, en fait. Mmh. Donc je me suis pris à ce jeu-là, complètement. Mmh. Et j'ai accepté ce rôle avec grand plaisir, en fait.
Écoute, replongeons-nous justement autour de 2012, 2011, 2012, avec cette première partie sur comment on monte un label. Ma question est très simple, c'est tu t'entoures assez vite de gens, Tu les connaissais déjà, en fait. C'est, est-ce que c'est parce que t'avais autour de toi des artistes, comme tu le dis, tu vois, où tu te dis, je vais monter un label, ou en vrai, depuis longtemps, tu t'étais dit, vas-y, je vais monter un label, quitte à aller chercher des gens. Est-ce que c'est un peu l'opportunité qui s'est présentée à toi, ou tu t'étais dit, vas-y, c'est un business, je connais, enfin, je peux le faire, tu vois, ce truc.
En fait, quand j'avais le premier label, déjà, je me disais que je vais faire ça. J'en ai monté un deuxième, et on voulait sortir le premier projet de cartel.
Ok.
Mais en même temps, en fait, il y avait des artistes que je côtoyais un petit peu. Je les voyais sur des labels, je voyais faire des trucs. Et c'est à ce moment-là, j'ai été opportuniste. Et puis je me suis dit, si tu fais pas ça, tu vas t'en mordre les doigts tout le temps, en fait. C'est vraiment, tu vois, je le dis, c'est vraiment... je savais que c'était le truc à faire.
Donc c'était une évidence,
ouais. Ouais, si je le faisais pas, je savais que j'allais, je sais pas. Je savais que ça allait pas, j'allais pas aller où je voulais aller, en fait.
Et le réseau était déterminant. C'est le fait de côtoyer ces gens qui, voilà, tu t'es dit, c'est l'évidence.
Non, en fait, déterminant pour le créer. Ouais. Non, j'étais déterminé à le créer, quoi qu'il arrive.
Ok.
Mais en fait, au fur et à mesure, en fait, j'étais avec Cartel, on avait cette envie de vivre un peu cette vie d'artiste.
Parce qu'il vient de Tours aussi, Cartel.
Il vient de Tours, ouais. Okay. On avait ce problème à Tours, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Montons quelque chose ensemble. Donc on l'a fait sous une première forme et sous la deuxième forme avec Roche Music, mais sans me dire j'ai du réseau et quoi. Je me disais juste, il y a moyen. Et puis, je vais proposer autour de moi, en fait. Mmh. Parce que je savais que j'avais des talents autour de moi, mais rien n'était cuit, en fait. C'était à travailler.
2012, votre première release sur le label, si je dis pas de bêtises, donc c'est le Périviera de Cartel.
Ouais, c'est ça.
Dès le début, il y a une forme d'audience. Est-ce qu'il y a des morceaux qui sortent du lot sur cette EP qui connaissent, tu vois, il y a un public qui s'y retrouve, et est-ce qu'on peut d'ailleurs écouter éventuellement des extraits?
Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est Pantera.
Ouais.
Et c'est vrai que ce morceau, il a eu une petite cote un moment où il jouait dans des soirées. Qui était organisé par un collectif qui s'appelait Pain Surprise,
ouais.
Qui avait des soirées un peu happening, un peu folles. Mmh. Et il jouait souvent ce morceau, et ouais, c'est vrai que ça a pris.
Très vite.
Ça a pris vite. Ouais.
Et comment vous avez fait en sorte que ça puisse être diffusé dans des clubs, que des gens, tu vois, la découvrent, ça sort pas de nulle part. Enfin, tu vois, il faut que les gens qui passent de la musique en club, ils savent que ça existe, qu'ils se disent j'ai envie de le passer. Ça...
J'ai vraiment aussi ce réseau de. Enfin, une mailing list que j'ai eue.
Okay.
Avec plein de blogs que j'avais récupérés de l'époque des blogs.
Okay.
Et donc j'avais un réseau et j'envoyais des mails. J'ai fabriqué des vinyles, j'ai envoyé des vinyles.
Okay.
Je faisais les cartons, tac.
Ça veut dire que t'as investi un peu de fric là-dedans au début?
Pas beaucoup, parce que j'étais assez vif. Ouais. Parce que j'ai mis 1 500 € pour monter la boîte. Et au final, on a réussi à faire... les vinyles, ça m'a coûté presque la totalité du truc. Mm-hmm. Le clip, on a fait un clip pour Pantera. J'ai réussi à négocier qu'on paye que si on récupérait l'argent. Donc c'était un genre de deal avant l'heure. Je ne connais rien, moi, à l'époque, en tout ce qui est contrat.
Ouais.
J'ai réussi à dealer ça, donc, avec une avocate en face de moi, et parce que je ne voulais pas trop lâcher d'argent. On n'avait pas de thunes.
Tu es passé par un distributeur français qui pouvait faire les vinyles.
Distributeur français, ouais, c'est ça. Avec qui on bosse toujours encore.
C'est Big Wax.
Big Wax,
qu'on Greg, on les a reçus. Ouais.
Voilà. Greg, qui nous a grave aidé depuis le début, qui nous distribuait aussi en streaming. Mm-hmm. Donc ça, en fait, le système aussi, en termes de production de la musique, ça nous coûte rien, parce que c'est sur l'ordi de l'artiste. Ouais. Ce qu'il faut payer, c'est juste des vinyles, un clip, et le reste, c'est marketing, tu le fais toi-même. Ouais. La distrib, ça coûte rien, ils se prennent un cut. Mm. Et au final, voilà. Mais on arrive comme je dis souvent, on arrive à un moment charnière où Internet est en train de... existe déjà, mais il est en train de changer. Ouais. L'industrie du disque, elle est en crise. Mais moi, à cette époque, je vois tout de suite que c'est Internet le futur. Mm. Puis en voyant ça, j'ai un background d'Internet depuis que je suis petit, où j'ai une vision d'Internet qui est vraiment globale, quoi.
Parce qu'il faut se replonger dans l'époque. Alors, les plateformes de streaming existaient déjà, hein, mais c'est vrai qu'on prend souvent la date. On dit souvent que c'est en 2015 que vraiment le streaming ça pète auprès du grand public, que vraiment il commençait à avoir un gros mouvement. Avant 2015, il y a des gens qui utilisent le streaming,
Je suis abonné depuis 2012 à Spotify.
Ouais. Je crois, si je dis pas de bêtises, le tout premier à se lancer c'est Deezer, mais quasiment la même année c'est Spotify. Je crois qu'on doit être en 2008, un truc comme ça.
C'est vrai qu'il y a une période, un moment où ça switch où ça devient important, quoi. Ouais. Parce qu'à un moment, il y a une période encore un peu où les gens ils achètent des MP3 sur iTunes et ils vont pas trop streamer. Même moi, j'étais pas trop streaming, je téléchargeais encore.
Mais t'étais quand même numérique, c'est-à-dire que tu voyais pas le délire de on va mettre nos CD dans des rayons à la Fnac.
Non.
Tu vois,
non.
Chez les disquaires.
En fait, moi, j'avais une vision dès le début 100% internet. En fait, j'ai fait des vinyles pour Cartel. Parce que je me dis, il faut faire un objet et qu'on a envie d'exister dans le monde des vivants, on va dire. Mais dans ma tête, c'est Internet, ça va être ça. Enfin, j'ai un label 100% Internet. Et puis, je voulais cette liberté de mouvoir, de faire mes trucs et de pouvoir redistribuer facilement, globalement, en fait. Mais pas m'emmerder avec, désolé de dire ça, mais avec du physique. Ouais, et d'en avoir 300 sur les bras. Parce qu'avant cette période, c'était vraiment la problématique. Ils étaient obligés de presser 1000, 2000 CD, vinyles. Ils en vendaient la moitié. Ils avaient un stock. Ils perdaient énormément d'argent, quoi. Enfin, pour des labels indépendants, en tout cas, c'était le sujet.
On s'écoute un extrait de Pantera de Cartel, parce que comme tu le dis, c'est un peu le premier tube, entre guillemets, du label, on peut dire comme ça ?
C'est clairement.
Ok. Et ben, c'est parti. Et je précise juste, Spotify, lancement 2006 même. Ouais. 2008-2006.
Ouais.
Allez, Cartel... Pantera.
C'est pas de la musique électronique.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de sampling.
Bah, il y a du sample et tout. Moi, j'écoute des samplings de Nike Wonder,
c'est un problème.
Oui, non, mais
j'avance un petit peu. Pour toi, c'est pas de la musique électronique.
Bah, ou alors j'écoute de la musique électronique et je savais pas, tu vois.
Bah, peut-être.
Non, mais en vrai, ça groove comme des instrus.
Ouais, mais la musique électronique peut groover. Les drums, tu vois, par exemple, je les trouve relativement musique électronique.
Les drums, ouais. En fait, c'est ça. C'est que c'est un truc très. Un peu hip-hop house, mais avec des drums très, très sèches, quoi.
Ouais.
Mais à base de samples, quoi. Et à l'époque, vraiment, l'influence qu'on a commencé un peu, c'était le hip-hop, mais aussi la French Touch.
Ouais.
Parce que s'il y a un truc qu'on a inventé en France, c'était ça. Et je me disais, mais il faut qu'on perpétue cette chose, quoi.
Ouais. 2012, donc là, cette EP de Cartel Riviera qui est important pour vous. Et déjà, si je dis pas de bêtises, cette année, FKJ vous rejoint assez vite. Parce que il y a l'EP Time for a Chance en 2013.
Time for a Change,
For a Change, pardon, en 2013.
Ouais.
Et alors 2012, j'ai pas réussi à trouver, mais j'en avais vu un truc, une espèce d'EP qui s'appellerait The Twins, mais introuvable aujourd'hui.
C'est le premier EP de FKJ, mais qu'on a mis en gratuit sur SoundCloud.
Ok.
C'était le... On faisait ça aussi pour préparer les artistes à émerger.
Ok.
Mais FKJ, je crois le deuxième EP de Roche, c'est Hot Stepa.
Ok.
Et FKJ faisait partie de ce duo à l'époque. Voilà, ces gars-là, c'est deux amis que j'ai rencontrés au collège de Vouvray. Voilà, il n'y a pas que de l'alcool à Vouvray.
Et donc là on est en 2012.
Ils viennent de se lancer. Hein, et déjà,
trois artistes dans le truc et tout le monde vient de Tours en fait, ou de la région Tours.
C'est ça.
De Touraine, quoi.
Ouais, ouais. Et par la suite, il y a le prochain, c'est Darius.
Ouais.
Et Darius. Je l'ai rencontré il y a peut-être 5 ans à Noël dans les rues désertes de Tours. Il y a 3 couillons, 4, on était 4 couillons à marcher dans les rues, puis on avait froid, on s'est réchauffé en buvant une petite bière dans un bar, on a fait connaissance, mais je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Hein. Et il m'a envoyé son MySpace, je lui ai envoyé mon MySpace, et on a cliqué comme ça. Parce que sa musique, déjà, je trouvais qu'il y avait un truc très touchant en fait dans sa musique. Et Et voilà, on l'a pas signé tout de suite, Darius, mais il était là.
Bon, un an après, il y a quand même
mais
un EP,
c'est marrant de voir.
Un single, non, en 2013, non, j'ai une bêtise.
Non, non, ah ouais. On signe en 2014
ah ouais.
avec Shiroki,
j'ai cru voir,
qui est son, qui est son, son duo à l'époque. Et on le signe, je me rappelle, on va jouer à Marseille avec Cartel et Shiroki sur une place fameuse. Bon, ma mémoire est grillée, les gars. Ça, c'est trop de soirées. Place, je sais plus qui. Bon. Et on propose au groupe Shiroki de nous rejoindre.
Ouais.
Sachant que je connais du coup Darius depuis 6 ans, que j'ai rencontré à Tours. Mais il voit ce qu'on fait, du coup, parce qu'on suit sur MySpace. Enfin, on suivait, MySpace n'existe plus. Après, on suit sur Facebook. Il voit ce qu'on fait. Et ben en fait, il fait un peu la même musique que nous, au fait. Tu vois, c'est bizarre, mais...
Est-ce que c'est la vibe Tourangène, c'est ça?
Tourangèle.
Tourangèle. Tourangèle, pardon.
Tourangèle.
Tourangeau, Tourangèle, très bien.
Ouais.
Ah, pardon,
je suis choqué du monde. Et ouais, non, je sais pas si c'est la vibe, je pense que c'était une histoire de génération. On a été bercés à Mojo, Lady, des Daft, tu vois, Superman Lover...
Ouais.
On a un peu le même background musical et ça match quoi.
Justement dans toute cette vibe, c'est-à-dire que donc on a Darius, Timmer Double, c'est 2014 si je dis pas de bêtises.
C'est ça. Ouais.
On va avoir ensuite en 2016 Crayon. On peut pas s'arrêter sur chaque aventure individuelle, ouais, ouais. etc. Mais est-ce que parmi tous ces artistes et dans cette timeline, disons 2012-2016, il y a des moments importants, des jalons, des morceaux de musique en particulier qui, dans l'histoire de Roche, ont été importants, marquants?
En fait, à cette période-là, presque ce EP qu'on ouais. en voit, parce qu'on en voit que des EP, il est important.
Ah ouais.
Parce que c'est une nouvelle recrue, donc une nouvelle personne dans l'équipe. Et donc, c'est une nouvelle personne que je vais intégrer au groupe.
Et ça prend aussi vis-à-vis des auditeurs,
ouais,
quasiment
ouais,
chaque EP.
En fait, ce qui est bien, c'est qu'au début, y a Cartel qui arrive, puis FKJ. Et on commence à être suivi par des groupes anglais, genre Bondax, Disclosure, qui regardent un peu ce qu'on fait, qui repostent. Il y a même un projet avec un anglais, du coup. Suite à ça, les anglais commencent à regarder, qui s'appelle Karmakid. Qui sort un EP. Y a Diplo qui nous reposte sur Twitter et tout. Donc il se passe des choses à chaque projet.
Okay.
Et à chaque projet, le public écoute un artiste et il va écouter l'autre en fait. Parce qu'il se dit, chaque release, ok, la barre monte, il y a un nouvel artiste, il y a un nouveau truc à découvrir.
Et du coup, comment vous... Au niveau de la sonorité, c'est vraiment parce qu'il y avait une communauté d'intérêt? Parce que finalement, il n'y a pas de directive réelle de la part du label de dire faut que ton son il sonne plutôt comme ça ou plutôt comme si ou
ouais vois. Pas du tout
parce que t'as pas enfin chacun est maître et compositeur de son propre truc donc
alors qu'on se dit qu'en théorie un label il doit avoir une identité
une couleur
aussi,
ouais,
une couleur vois. Effectivement
en fait nous notre couleur elle est dans l'état d'esprit c'est un truc impalpable en fait et en fait le délire aussi à l'époque c'est qu'on fait les soirées ensemble parce que je fais des soirées que j'organise pour aussi aider les artistes à évoluer dans le label et à avoir cet esprit d'équipe. On va en studio ensemble, on se partage la musique, on parle beaucoup. Et quand on fait des voyages, on voyage à deux, trois.
Donc c'est un état d'esprit en fait.
Il y a un état d'esprit.
Camaraderie.
Ouais. Et puis après, on.
Ouais, mais si tu vois, il y en a un qui faisait de la musique classique, l'autre du rock à la Led Zeppelin. Enfin, tu vois, ça aurait pas.
Ouais, après, moi, j'ai pris des artistes, je trouvais que musicalement, ça me correspondait. Aussi dans l'envie que j'avais du label.
Mais c'est quelque chose que t'avais déjà un peu, t'avais mis le doigt dessus, t'avais matérialisé le truc ou c'était un petit
franchement,
peu
franchement non. Quand je réalise en ouais. arrière, je me dis ah peut-être il y avait ça, c'est pas un hasard. Mais je pense que globalement on partait vers un délire où on savait où on allait mixer, on savait quel était le style de musique, on suivait un peu les mêmes blogs, on suivait surtout SoundCloud, il y avait des artistes qui émergeaient, on aimait un peu les mêmes artistes en fait, il y avait un truc. Mais
ça se construisait en équipe, justement, l'idée de ah tiens, on pourrait accueillir tel mec, la ouais. musique est cool, ou c'était toi avant tout qui disais non, on a une, enfin ça me plaît, on le ramène, tu vois.
Non, on a fait. En fait, il y avait des rendez-vous qu'on faisait souvent, mais j'ai quand même pris les rênes de tout ce qui est party events, gérer le label, etc. Et après, chaque artiste est devenu assez indépendant avec son management, etc. Parce que c'était important aussi de déléguer ce côté management. Parce que moi, au début, j'ai managé FKJ et Cartel. Okay. c'était assez chronophage en fait, parce que je faisais plein de trucs et je pouvais pas tout gérer.
Oui, parce qu'un patron de label, c'est pas censé être le manager individuel des artistes, quoi.
Mais à l'époque, c'est tellement un truc de jeune loulou que tu fais tout, tu vois. T'as pas d'état, l'état d'esprit de l'entreprise, t'es dans un truc plus de communautaire, d'entraide. Donc t'as envie d'aider les autres à réussir, il y a un truc, on va ensemble au front.
À quel moment justement tu te dis, il faut, pour le management, aussi bien pour le développement des artistes que pour ta propre santé à toi, il faut que tu délègues, tu vois. C'est quelque chose qui est conscient ça aussi, ou à quel moment tu fais la bascule en disant je peux pas continuer comme ça en fait?
Bah, c'est les artistes qui te disent là t'as pas répondu au mail, là tu fais effectivement j'ai plus le temps. Là, des fois t'as besoin que quelqu'un te le... Moi c'est surtout mon cas, j'ai besoin qu'on me dise des fois on arrête, parce que je lâche pas le morceau et je suis assez con de pas le faire.
Et à un moment dans
l'histoire, après, et ce que j'ai fait du coup à l'époque, c'est que mon cousin bossait dans le management avec quelqu'un qui s'appelle Guillaume Héritier, qui est le manager de Sofiane Pamart aujourd'hui. Et donc, ils sont mis à manager FKJ, Cartel et moi. Donc, voilà. Et Guillaume Héritier a fait partie de l'aventure Roche au tout début aussi.
Et tu dis, c'est parce que lancement 2012 à peu près. À partir de quel moment tu te dis, oula, là j'ai besoin de backup, tu vois, d'aide? C'est très vite, 2012-2013, ou c'est plutôt 2015-2007, après quelques années d'expérience quand même, où tu dis, j'ai plus le temps, j'arrive pas?
En fait, le premier, en fait, il y a cette histoire de management. Mais le revers de la médaille du management, c'est que tu les mets dans un management, ils vont dire, ah, le label, il est pas assez fort. Donc après, il faut staffer le label. Donc j'ai travaillé avec un collègue et un deuxième. Mon deuxième qui s'appelle Thibaut Durie, qui est aujourd'hui le label manager du label, qui m'a beaucoup aidé sur le marketing. Et ensuite, qui s'est imposé pour prendre ma place en tant que label manager, pour que j'arrête de le faire et que je passe sur un autre sujet. Mais fallait step up le label parce que eux ils voyaient que les artistes montaient et le label avait pas les reins pour.
C'est-à-dire que potentiellement ils auraient pu changer de label si ils voyaient que.
C'est ça. Ouais. Mais sauf qu'on avait créé un truc tellement fort. Et on a tellement réussi à step up le label et à montrer qu'on pouvait les tenir que c'est resté en état jusqu'à aujourd'hui. On a perdu aucun artiste.
Oui, c'est ça. C'est
par,
vrai que
par défaut en fait.
C'est vrai qu'en fait, après 10 ans de vie, rares sont les rosters qui sont
c'est ça
avec
le plus dur.
Les mêmes membres qu'au début.
Au début, j'ai vu plein de labels. Je pense à No Way Days avec Fakir, qui est parti chez Universal à un moment. Il y a plein de labels indépendants comme ça, ou des labels indépendants qui ont carrément périclité parce qu'ils ont perdu leur plus gros artiste. Nous, on a la chance d'avoir gardé les gros et travailler là-dessus, quoi.
On s'écoute parce qu'on a évoqué donc Cartel, dont on a déjà écouté un extrait, ensuite FKJ,
Double, Crayon,
Double, Darius. Peut-être pour chacun un extrait bref d'un morceau iconique, plutôt des débuts du label. T'as des idées?
Alors pour le Cherokee, donc avec Darius et Dorian, qui s'appelle Don't Matter.
Allez, ça sort en quelle année, tu te rappelles?
2014, je dirais.
Ouais, 2013 même.
Okay. Oh putain.
Oh, c'est vieux. Un petit extrait d'Ant Matter, Cherokee et Dariana Everett, c'est ça?
Ouais.
Bon, musique électronique ou pas là?
Mais c'est vraiment charmé, hein, ouais.
Ah, c'est un peu plus électro, en effet.
Ouais. Là, ouais.
Je me permets d'avancer un petit peu.
Ah bah non, c'est dommage. Yes.
Mais en fait, j'avance un peu parce qu'on a beau avoir...
Oui, on va se faire le label. On a quand même le label avec
même
nous.
Si vous nous donnez des recommandations, YouTube, ils peuvent nous embêter. Tu vois.
Ah ouais, mais j'ai eu le même problème. Quand j'ai fait une Boiler Room, j'ai joué un son du label et ils me l'ont switché, quoi.
C'est terrible, ça vous appartient. Et...
c'est moi qui joue morceau de mon label. Je me fais cancel.
Striqué.
Quoi, ce bordel?
Ok, donc ça, c'était Cherokee, donc groupe de Darius.
C'est ça.
Et on a évoqué également FKJ, Timur, Double.
Ouais,
FKJ, c'est quoi un peu son premier gros carton?
Il y a Lying Together.
Ouais.
En fait, ça, c'est assez ouf parce que je me rappelle, il le sort sur SoundCloud.
Ouais.
Et je sais pas, il m'appelle, c'était 1h du match, je crois. Il me fait, mec, putain, c'est en train d'exploser. Va sur SoundCloud. Et son truc, il avait pété, en fait. Ça faisait des vues, des commentaires partout. Et c'était l'époque, vraiment, c'était très viral, en fait.
Parce que je vois qu'il apparaît sur l'album de 2017, French Kiwi Juice, mais c'est sorti avant, single?
En fait, il était sorti avant, ouais.
Ok.
Et après, parce qu'il avait mis en free, comme on faisait des fois, on envoyait des trucs. Sauf qu'on s'est dit, celui-là, faut le... Et c'était pas 2017
pour l'album French Kiwi Juice?
Ouais, parce que Spotify dit après.
Après, oui, Spotify.
Ouais, attention, lui. Ouais, c'est ça. C'est
mais ça sort quelques années avant en single.
Ouais.
Et gros carton pour AKG.
Ouais.
C'est marrant parce que Daz se demandait tout à l'heure un peu par rapport à une forme d'unité esthétique, tu vois, au sein du label. Tu nous disais que c'était avant tout à travers tes goûts, puis en équipe aussi, tu vois, les gens qui vous plaisaient, etc. Sur votre chaîne YouTube, vous avez mis en ligne, sur la chaîne donc de Roche Music, un documentaire pour célébrer un peu. Alors, c'était un peu avant vos 10 ans, mais c'était quand même dans l'idée, quoi. Où vous retracez un peu l'histoire du label pendant 1h30. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs et tous nos spectateurs à aller le check.
Après cool.
Après cette émission,
après,
bien entendu,
évidemment.
Mais très très cool. Il y a un moment, je crois que c'est Zimmer qui raconte que il y a un truc un peu commun au grand tube Roche Music, c'est un tempo relativement lent. Et je trouve qu'effectivement, tu vois, depuis là, les trucs qu'on a écoutés, ça prend un peu le temps dans l'introduction.
Ouais, déjà,
effectivement, on est plutôt sur des tempos assez lents. Ouais. On pourrait même rajouter une culture du sampling aussi, des chops vocaux, etc., qu'on retrouve beaucoup. Ouais.
Après, c'est vrai que là, tu vois, FKJ là, sur ce morceau, il joue la basse. Donc il est instrumentiste, les autres ne le sont pas, ou moins. Mm-hmm. Donc,
monstrueux, FKJ.
Mais on retrouve un truc, parce que lui, les influences d'FKJ, c'est B.B. King, c'est de la soul, c'est de la funk. Et on a ça aussi tous, tu vois, même si on fait du sampling, on trouve un moyen de retrouver cette sonorité qu'un bassiste peut avoir, tu vois. Donc j'ai un peu oublié la question, mais
non, il y avait à la fois le pour essayer de mettre des mots sur l'esthétique qui pourrait vous correspondre, cette idée de tempo lent et de sampling et chop vocaux
de basse
vocaux aussi.
Ouais, puis il y a un côté assez doux et un peu, on va dire, c'est des tracks au final qu'on pouvait jouer en club.
Ouais.
On les joue en club et de l'autre côté, les gens l'écoutaient pour se relaxer et tout. Il y avait un genre de c'était une ambiance spéciale, les soirées Roche, il y avait un truc où on pouvait commencer assez smooth avec une ambiance avec ces sons-là, ou des morceaux de Darus un peu plus punchy. Mm-hmm. Et puis ça plaisait, en fait.
On n'a pas... il faut pour être respectueux envers tout le monde. Parce que donc 2012, 2013, donc Cartel, FKJ, 2013 Darius aussi, on écoutait avec Shiroki. Et 2014, Zimmer et Double qui vous rejoignent. Peut-être terminer avec ça, juste un petit extrait de Zimmer, un petit extrait de Double peut-être.
Ouais.
T'as une idée de morceau important pour Zimmer et Double?
Double, il y a TR-707.
Alors là, on est en 2014. Ah bah oui, il vient de vous rejoindre à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Alors là, tu vas voir, tu connais un peu Double?
Non.
Ah mon gars, tu vas voir, c'est ma cam de ouf, c'est funky, tu parlais de G-Funk, etc. C'est aussi dans ces inspirations-là.
Always stop, it's way to rent my car.
Alors, c'est nice. Hein.
C'est question bête. T'arrives encore à écouter ces morceaux qui ont été énormément diffusés, que vous avez dû passer 3 milliards de fois en club, etc.
Franchement, ouais. C'est pas en club. Après, il y a le double, je le joue parce qu'il sonne déjà fort. Ouais. Et encore, c'est marrant, je réécoute tout là un peu, je trouve que ça sonne vieillot, en fait. Ouais. Pas vieillot, mais ça a vieilli. Ouais.
Ça a 8 ans, hein, je le dis.
Mais quand tu te rends compte
de la rédaction,
du niveau que les gars ont pris depuis, en fait, ouais. C'est assez impressionnant. Mais c'est assez cool d'avoir pu commencer à faire un début de carrière en commençant... avec du matos de piètre qualité. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé dans une niche et c'est ça qui nous a aidé à réussir. Mais les idées sont juste géniales, quoi. Musicalement, c'est trop bien. Après, c'est produit comme un mec qui commence la musique.
Ouais, ça sonne vachement oui. bien, hein, franchement.
Mais, non, mais c'est surtout... Parce que là, on en parle comme si c'était normal. Mais t'es quand même en train de nous dire qu'en 2012, première release... Et qu'en fait, dès la première année, il y a des tubes, entre guillemets, tu vois. Alors, à votre échelle, hein, c'est pas tube énergie, machin, aux États-Unis partout, mais chaque premier EP, c'est une réussite, quasiment. C'est hallucinant, c'est pas normal. Ah ouais. Normalement, ça marche pas comme ça,
cette histoire de niche qui fait que il y a un engouement dès le début. Et c'est... En fait, j'ai choisi aussi d'aller dans cette niche, parce que ça fait un moment que j'observe un peu les trucs, et c'est de là où tu pars, en fait. Mmh. Même dans les soirées qu'on faisait. En fait, on a juste pris les gens qui voulaient de nous, en fait, hein, au niveau où on était. Et quand tu commences bas, en fait, tu peux que monter. Et on n'a pas choisi à se caler sur telle scène ou telle scène. On a vraiment choisi de prendre une petite niche sur SoundCloud, trouver des producteurs qui nous correspondaient, d'essayer de communiquer avec ces gens-là, voir les gens qui aimaient la chose. Et de faire monter à partir d'un groupe, en fait, de gens. Donc, on a été très sensibles à notre environnement, en fait. On a fait attention à ça. Et c'est ce qui fait que aussi ça a pris, tu vois. Parce que je pense que, même si, on va dire, c'est des tubes, c'est clair. Musicalement, des pros de l'industrie, ils étaient pas si excités que ça. Mais c'est au bout de 2014-2015 qu'ils ont commencé à venir. Il y a Patrick Moxley qui est venu me voir, le patron de Sony, ATV, que j'ai rencontré, qui m'a parlé, qui m'a fait les plus grosses louanges du label. C'était assez ouf. Mais c'est le buzz commençait à prendre à ce moment-là, en fait, 2015. Et enfin, il y avait un truc, c'est dur à expliquer, mais.
Mais si toi, t'avais démarché ce gars-là en 2012, en fait, il t'aurait pas donné l'heure, tu vois.
Je pense. Que, ouais, c'est en travaillant, en développant cette base-là, qu'on a réussi à monter, en fait.
Mais du coup, je pose une question, peut-être que c'est une partie qu'on abordera après, mais là, donc, tu signes des artistes, il y a une communauté d'intérêt, d'appétence pour le même style de musique, etc., et tu les développes, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si l'artiste, au bout de 8 ans, 9 ans, au bout de 10 ans maintenant pour le label, tu te rends compte qu'il part dans une direction où il dit « Ouais, moi, en fait, j'ai envie de faire autre chose. » Est-ce que tu l'accompagnes toujours et du coup, ça reste Roche Music, ou est-ce que du coup, là, t'es plus en phase avec l'identité du truc et... Tu vois ? Comment tu peux gérer les...
C'est arrivé une fois.
Ouais.
Mais bizarrement, aujourd'hui, même si chacun a aujourd'hui un style qui est vraiment distinct et qu'il n'y a plus de son Roche, je trouve, on a quand même... Enfin... Il y a un attachement, je sais pas, qui fait que...
Il reste un truc qui...
Il y a un truc même dans leur musique qui est... le nouvel album de Cartel, il est vraiment génial. Il a trouvé son style à lui. Darius, il a son style. Mais je sais pas, je pense que le fait d'avoir été si longtemps ensemble et d'avoir été si longtemps catalogué ensemble fait qu'on va... Il n'y en a pas un qui va partir dans la drum and bass ou dans la trappe. Tu vois, même Crayon, aujourd'hui, il produit pour beaucoup de rappeurs. Il produit pas de la trappe. Il a un truc très spécifique avec des drums, comme son album avec Dune qu'ils ont fait en duo. Il y a ce truc avec des drums, des beaux accords, des arrangements, etc. Il fait pareil dans le rap. Donc on garde, je sais pas, une ADN qui... On change pas vraiment du tout au tout. Il y a ce truc...
C'est une évolution.
Une évolution constante. Et en fait, quand déjà t'as trouvé ton son... c'est un truc qui est rare dans l'industrie, je trouve, où d'avoir un style. Parce que souvent, les gens font, ils vont faire un style. Mais avoir son style à soi, c'est le plus dur. Et je pense que c'est ce qui nous anime un peu d'être unique, différent, et voilà, d'avoir notre sonorité à nous, chaque artiste. Et du coup, on s'est un peu décroché du label. Au début, on cherchait, on avait notre truc, on donnait des tips, on produisait avec les mêmes instruments, les mêmes trucs.
Mais du coup, il y avait c'est ça, je vais essayer de voir s'il y avait cette volonté qui était même matérialisée. Genre, limite, on fait des réunions entre nous pour dire, c'est quoi notre son, qu'est-ce qu'on fait, tu vois.
Ouais, d'accord. On allait au bureau, j'ai des photos encore, on est en groupe, tout le monde est là, on parle un peu de... on a même développé un moment le logo ensemble, on a fait la vague, il y avait la vague à un moment, on l'a fait que tous les gars on a décidé, ça on a cet esprit de groove là, on en a parlé avec les gars aussi, ça nous correspond bien. Et en fait il n'y a pas que les rendez-vous au bureau, il y a aussi les dîners, il y a les soirées,
c'est le temps passé ensemble,
en fait on parle, et quand on prend le train on va en date, on prend l'avion pour aller au Mexique, on se retrouve à 3-4 et puis surtout quand on passe des étapes. Quand il y a des soirées où on est invité par, je sais pas, on fait un event invité par quelqu'un qu'on admire, on va dire, oh, là on y est, les gars. Et on parle et on dit, on va aller là, la prochaine étape, on va faire ça. Enfin, on se monte le cerveau, quoi, en fait. Ouais.
J'ai, pour bientôt finir cette première partie un peu sur les débuts, entre guillemets, question bête pour recoller un peu aux aspects business aussi. Si on signait comment les artistes, ça se passe comment dans un label? C'est-à-dire qu'ils s'engagent à fournir un EP, un album? Est-ce que c'est sur du long terme? Il y a une fin au contrat? Est-ce que on sait que ça peut se passer comme ça parfois. Tu signes pour temps de release, par exemple. Puis une fois que tu as fait fournir entre guillemets tes albums, tu vas où tu veux derrière, si tu veux partir. Bon,
je vais pas te mentir, premier contrat était caduc, quoi, clairement. J'y connaissais rien, donc j'ai pris des contrats que j'ai trouvés. Voilà, par des gens qui étaient dans les labels, machin. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais après, on a rencontré un avocat qui nous a aidés. Stéphane Cherki, si tu nous entends, merci. Parce qu'il nous a beaucoup aidés à faire des contrats vraiment gratuitement et tout, à nous accompagner. Et ça a été un peu plus sérieux. Après, nous, notre philosophie, c'est pas d'enchaîner quelqu'un. C'est-à-dire, là, s'ils veulent partir, ils partent. Ouais. Tu vois, même s'il a écrit 3 albums, en fait, pour nous, l'important, c'est que...
Donc, il y a quand même un lien contractuel sur un engagement de release, mais...
On le fait plus, ça.
Ouais.
Au début, on le faisait, et puis les artistes, ça leur va pas. En fait, nous, on veut vraiment travailler dans une bonne intelligence. Et c'est un peu dangereux pour nous, parce que on se back-up pas. Mais avec les artistes originaux du label, on est en... Si tu veux partir, tu pars, en fait. Et le truc, on casse. On n'est pas envie de rentrer en conflit avec les gens. On n'a pas que ça à faire, en fait, de causer du tort aux gens. Il y a des gros labels qui... C'est leur business, ils signent. Et après, si l'artiste n'est pas content, ah ben non, là, tu me dois ça.
Nous, on voit pas ça. Voire l'artiste, même, les gros labels, ils peuvent dire, tu sors plus rien, en fait. Donc,
Ouais. Prince, c'est le bon exemple d'un mec qui a souffert de ça. Qui a dû carrément s'appeler Love Symbol.
Changer de nom complètement.
Tu vois, mais nous, vraiment, c'est pas ça l'objectif. C'est, je pense, les artistes, ils se sentent libres, ils se sentent heureux, tu vois. Et c'est de la mentalité depuis le début.
Il faut qu'on s'écoute un extrait de Zimmer parce qu'on l'a mentionné. Il y avait un morceau que t'avais en tête de Zimmer.
Sunsify Me, c'était le premier single qu'il a fait chez nous, ouais.
Allez, et c'était, on est en 2014. Magnifique, c'est parti. Zimmer et KLP. Je ne connais pas KLP.
KLP. Non mais écoute, c'est
avec KLP.
On a trouvé plein de chanteuses de partout.
Très bien.
C'est très cool.
C'est parti.
Something in the water. Vanilla skies. Something I order. I order chai.
Bon là on est complètement dans la vague à la fois chill et dansante. Tu peux effectivement le mettre dans plein d'univers différents.
Ouais, c'est ça. Ouais.
J'ai une question qui va peut-être te paraître bizarre. Mais on est qu'à un moment où tu constitues une équipe. Mmh. Alors il y a les affinités qui comptent, bien entendu. Mais il y a aussi, à la fois pour la réussite du label, pour votre image, etc. Il faut constituer une image, enfin une équipe qui soit à votre image. Mais est-ce qu'on se dit aussi, par exemple, là on n'a pas de fille, faudrait peut-être en prendre une. Est-ce qu'on se dit, vas-y, je veux un peu de diversité dans mon équipe aussi. Est-ce que c'est des questions qu'on peut se poser, ça, quand on gère un label?
Ouais, clairement. Mais moi, la question que je me posais d'abord, c'était de la survie, on va dire, tu vois. Mmh. T'es dans cet état d'esprit de survie de... Et en fait, j'allais pas prendre une fille pour prendre une fille. Parce qu'en fait, j'ai vraiment, pendant longtemps, on a eu une fille qui s'appelle Chloé Martini, qui a fait un super EP chez nous. Elle était polonaise, donc elle était loin de chez nous. Et en fait, des filles, des femmes qui produisent dans notre style à cette époque, il y en avait pas. Okay. Donc, on n'allait pas la créer, c'était pas notre style de prendre quelqu'un, de lui produire. Aujourd'hui, on a trouvé une artiste coréenne qui s'appelle Didiane. Mm-hmm. On est super content d'accueillir une fille musicienne. Mais c'est dur quand t'es une petite boîte d'avoir une politique de positivité, d'inclusivité. Ouais. C'est pas possible. Mm-hmm. Aujourd'hui, on fait plus gaffe, quoi, clairement. Mais dans le staff, par contre, c'est différent.
Ouais.
Dans le staff, il y a une mixité, il n'y a pas de problème, quoi. Mais ouais, dans le label, ça a été un truc, ça a été un sujet. Mais le problème, c'est que je trouve pas de productrice. Moi, j'ai toujours fait aussi un peu à l'instinct, donc les gens, ils m'apparaissent un peu comme par magie, on va dire, dans mon parcours. Voilà, Didiane, elle est apparue, tu vois. J'ai sauté sur l'occasion, de Clé Martini aussi. Mais c'est très dur. Quand t'as un label et que t'as un style à défendre, en fait.
Dans cette même lignée, un peu, de constituer une équipe, est-ce qu'il y a eu le fantasme au début de Roche de se dire, ok, il y a les copains, mais si on arrive à toper là, à faire rentrer sur le label un gros artiste, vas-y, je vais essayer d'en contacter quelques-uns. T'as tenté de faire ça?
Je sais pas, en fait, il y avait un truc où on avait ce qu'on voulait un petit peu.
Pas cherché à connecter des gens, à connecter avec des gens qui étaient déjà gros en disant, on peut peut-être les attirer sur le label.
On a toujours connecté avec plein d'artistes, hein, ouais. Tu vois, Kai Tranada, on croisait souvent Kavinsky, on fait des soirées avec eux. Après, en fait, ces gars-là, faut les trouver au début, en fait. Tu vois, donc les gros, en fait, nous, on est un petit label, on développe des projets. On n'arrive pas à prendre des gros, à faire, on met les billets sur la table et puis on défend l'artiste. Ouais. Nous, c'était vraiment, on prend des artistes qu'on découvre, on les fait monter. Donc là, maintenant, les labels se disent, tiens, comment je fais pour signer Darius ou Dabeul? En fait, fallait les faire monter, quoi. Mais
il n'y a pas de notion de débaucher.
Non, mais aujourd'hui, peut-être. À l'époque, c'était dur. C'était dur parce que on n'avait pas les reins assez solides financièrement parlant pour faire ça.
C'était quoi justement le... Parce que donc, on a bien compris que c'était un petit label indépendant, etc. Est-ce que tu avais toujours la vision? Parce que là, après 10 ans, tu peux te retourner et dire, ok, on a fait comme ça, on a fait comme ça, et t'as une histoire qui est cohérente pour le... Mais à l'époque, quand t'étais la tête dans le guidon, en fait, c'était quoi tu voyais à quoi? Tu voyais à 3 mois, 6 mois, 1 an
Au tout début...
Est-ce que même tu te posais la question déjà de dire où on sera demain? En fait, on sait pas, vas-y, on fait les trucs, on verra bien.
Après, connement, je me dis, on va au max.
Ouais.
On va au max, on essaye de franchir des étapes. C'est vrai que tu vois pas très loin. Et je pense qu'à un moment, j'ai eu un petit coup de mou parce qu'on avait un peu coché toutes les cases qu'on voulait.
Il y avait un genre de plafond, quoi.
Ouais, puis je me disais, c'est quoi la suite, quoi? Parce que je trouvais qu'on avait déjà fait pas mal de trucs. Et après, tu retrouves juste le plaisir de le faire et de développer d'autres artistes. Mais quand tu vois qu'un FKJ, il a fait Coachella, il a fait le tour du monde.
Ouais.
Après, c'est quoi l'objectif après, quoi?
Et même les artistes eux-mêmes, peut-être ils arrivent aussi après avoir fait Coachella et le tour du monde, ils viennent te voir en disant, bon.
Le prochain album, c'est dans 10 ans.
En fait, du coup, après, quand tu arrives à ce niveau de réussite, je pense, tu penses plus à te faire plaisir, cherches moins à plaire aux autres.
Non, mais ce qui est surprenant, c'est que on sait que la musique, c'est un monde de squal, tu vois, et c'est quand même fou de se dire que t'as des pépites et qu'il y a personne qui a essayé de te mettre une disquette pour les récupérer ou tu vois.
Ah si si.
Ah. Ah, si, t'inquiète pas.
Ah d'accord. Il y a eu des histoires avec des managers, avec des labels.
Ah voilà, ils ont quand même essayé de vous niquer. Ouais, ouais, ça me rassure. Je me disais, c'est incroyable cette histoire. Ok.
Bien sûr. Mais je sais pas, on était tellement dans un mode c'est ça ou rien que je sais pas, ça s'est passé quoi. Mais
et si une major est arrivée en disant moi je rachète le label en fait, je l'intègre.
Peut-être que ça vous a été proposé d'ailleurs.
Ouais, ouais, mais franchement c'est pas trop dans ma philosophie de. Ouais.
Mais ça vous a été proposé?
Ouais. Okay. Ouais, ouais. Mais je sais pas, je. Pour l'instant, non. On verra plus tard, mais ouais. Pour l'instant, l'histoire est trop belle pour. En fait, j'aimais cette liberté. Aussi, cette envie de développer une histoire, en fait. Développer une histoire avec le staff, avec les artistes.
Non, mais tu vois, comme tu évoquais Defro, par exemple,
ouais.
En début d'émission. Defro, c'était un label qui était géré en propre, mais qui était sous Interscope.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Tu vois. Donc, est-ce que ça serait un truc qui serait envisageable, le même genre de fonctionnement, c'est-à-dire on vous laisse la liberté créative, vous faites ce que vous voulez, mais vous vous appuyez quand même sur une grosse machine pour la distribuer.
Oui, bien sûr. Ouais, ouais, je pense que c'est un truc qui peut arriver. Surtout qu'on a, je vais pas dire on a fait le tour, mais en 10 ans on a sorti beaucoup de projets, des albums. Si on veut passer un peu l'étape supérieure. Ouais, il faut s'appuyer sur un gros. Et puis nous, en tant qu'entité de label, on n'a pas envie de devenir un gros. On ne veut pas devenir un Universal, on ne veut pas devenir un Sony. Et donc on a besoin de s'appuyer d'une entité. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres choix que de prendre un gros label. Il y a aussi les distributeurs qui sont très forts.
Ouais.
Donc oui, c'est un truc qu'on a discuté cet après-midi, par exemple, tu vois, pour voir le futur comme on le voyait. Ouais. Et voilà, c'est en réflexion, on va voir ce qu'on peut faire.
Avant de se lancer dans le futur, passons à la deuxième partie. Le futur sera un peu la troisième partie, tu vois.
Okay.
On a bien compris qu'il y avait déjà un succès, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un basculement. Alors moi, je l'avais visualisé autour de 2017. Toi, peut-être tu pensais plus à 2015 tout à l'heure, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que 2017, 2018, 2019, il y a des vrais trucs qui se passent vraiment fat.
Ouais.
Et je dis une bêtise ou...
Ouais, ouais, si, c'est là où il y a un retour... Parce qu'il y a les albums, les albums. En fait, c'est juste avant le Covid, en fait. Ouais. Ça commence à revenir bien. Il y a des beaux projets. Mais il y a eu un moment de creux, en fait, aussi.
Comment t'expliques ce moment de creux et pourquoi ça se relance d'un coup? Est-ce que c'est juste la musique en elle-même, tu vois, au moment où elle rencontre son public, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs?
D'un moment, les gens, ils t'ont trop vu, tu vois. Il faut se cacher, quoi. Il faut se faire oublier. Se faire oublier ce que t'as fait. Des festivals, tu les as fait deux fois, t'es déjà allé dans tel territoire. Et il faut se renouveler aussi, rapporter quelque chose de frais. Donc il y a une remise en question. Après, j'ai pas la timeline en tête de tous les... Il me faudrait une frise historique, tu vois.
Vous pouvez faire ça au bureau, après vous l'affichez.
Ouais, exact, comme ça je l'ai en tête. Je vais le mettre aux toilettes, comme ça. Sûr de pas oublier. Mais ouais, il y a un creux de la vague, normal. C'est normal, et après il faut se réinventer.
Que vous subissez, y compris économiquement, le creux de la vague?
Ouais, ouais, parce qu'il y a des erreurs de jeunesse qui font que j'ai monté la boîte comme un mec qui n'a pas de formation, quoi. Ouais. Donc j'ai fait des erreurs de comptabilité. J'ai aussi eu un collègue qui nous a fait faux bon. Je m'étendrai pas, mais ça fait un peu mal.
Ah, donc vous avez réussi à perdre des gens alors? Parce que depuis le départ, on disait les artistes sont restés.
Pas les artistes, mais des collègues.
Mais là, c'est les collègues. Il vaut mieux ça, tu vois, finalement.
Ça dépend, il peut y avoir des gens dans le staff essentiel.
Hein, vaut mieux un collègue qui se barre qu'un artiste.
Ouais, mais il s'est barré parce qu'il a causé du tort à la boîte. Donc
ah
ça,
oui, d'accord.
Ça nous a coûté cher, cette histoire. Ouais. Donc voilà, c'est une accumulation de petites choses qui font que bam, la boîte, elle commence à baisser. Les artistes, ils ont produit plein d'albums, ils n'en produisent plus. Tes projets que tu sors, ils sont un peu moins bons. T'en sors moins, parce que t'es un peu fatigué aussi. Tu sais, t'as des périodes de down.
Ouais.
Mais le truc, c'est qu'on lâche pas. On écoute plein de musique, on se renouvelle. Et donc, les périodes d'albums qui reviennent sont magiques pour nous, quoi.
J'ai des hypothèses. Tu me dis si tu les valides. D'ailleurs, là, c'est même pas une hypothèse, mais c'est dans quelle mesure le moment vraiment où ça répète, entre guillemets, donc autour de 2017, il y a une vraie hype, d'ailleurs un peu parisienne, je pense.
Clairement.
Je sais pas si c'est un truc que vous assumez, qui vous a fait plaisir ou pas, mais j'avais le sentiment quand même, tu vois, parce qu'il y avait aussi une forme de lifestyle autour de Rush Music quand même, tu sais, un truc, il y avait du merch, vous vendiez de la sap, il y avait le côté événementiel, club, etc., un truc un peu stylé, tu vois, et très parisien. C'est un truc que vous revendiquiez, parce que c'est pas forcément la simplicité d'ailleurs du regard extérieur. Si on peut dire, ouais, ce mec, il se la raconte, tu vois.
Bah après, ou... nous, on revendique rien, en fait. C'est notre quotidien. Enfin, tu vois, le merch, ben, c'était pour économiquement parlant, c'était cool, tu vois. Après, on a essayé de faire des trucs de qualité. Les events, bah moi j'aime faire la fête, donc puis je trouve que c'est un bon levier aussi pour un label de faire des events, parce qu'en fait c'est de la promo gratuite si tu réfléchis. On allait au social, mais de la promo social sur club. Tout leur social club, feu social club, ils mettent toute la promo sur la soirée, ils te payent le line-up d'artistes et donc toi t'as de la promo gratuite. C'était un levier pour nous. Donc écoute, les gens ils voyaient ce qu'ils voulaient, hein, mais en fait, c'est bien qu'ils voyaient quelque chose, en tout cas.
Ça, c'est vrai. Mais au-delà, en fait, ma question réelle, c'était est-ce qu'on arrive à maîtriser encore son image, que parfois elle nous échappe? Est-ce que parfois ça fait un peu de mal de se dire voilà comment je suis perçu, tu vois, en tant qu'entité label?
Moi, personnellement, je fais pas trop gaffe à ça. Donc, ouais. ça m'a pas trop atteint, tu vois. Ouais. Et puis, autour de toi, les gens, ils sont plutôt positifs. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens, ils devaient tailler. Ouais, bon, tant pis, tu sais.
Et tu penses que dans ce succès, le côté événementiel, club, ça a été essentiel? Est-ce que si vous aviez release la musique sans la défendre en club, ça aurait pas fonctionné de la même manière?
Ouais, je pense que c'était même... c'était aussi essentiel que de sortir de la musique, je pense. Okay. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était le... Bah, déjà, moi, c'était mon moyen de m'exprimer un peu, mais au final, c'était un moyen vraiment de mise en avant... De fédérer aussi une communauté, tu vois, mais pas que les artistes et pas que le staff, c'est aussi bah, les gens, le public. Parce qu'en fait, on s'est fait pote avec plein de gens du public. J'en ai découvert pas mal, par exemple, les gars de la Darude, Karl Dye et Romaric, qui font la Darude maintenant, des gens, Warren Co qui bosse avec nous, qui était dans le public. Tu vois, on recrute des gens aussi dans le public. Des gens qui viennent nous voir, on se fait pote avec des gens, ou ils nous ouvrent des portes sur d'autres choses. Ça crée une communauté. On connaît des mecs qui font de la cuisine, des restaurateurs, donc on va manger chez eux maintenant. Tu vois, enfin, on a tout un réseau grâce aux soirées, c'est ultra important. Si t'enlèves ça, t'enlèves un moyen de te connecter physiquement avec les gens. Mmh. Et pour moi, c'était le plus important de. Voilà. Genre, on aurait pu rester dans notre petit monde à faire des sons, les envoyer sur Internet. Mais de les voir les gens en vrai, de créer des events, des moments de rencontre, c'est le mieux, quoi.
Parce qu'au-delà du fait d'être accueilli dans des clubs, il y a aussi le fait d'organiser ses propres événements. C'est un truc que vous avez beaucoup fait.
Ouais.
C'est un métier, ça, spécifique. Qui s'en chargeait? C'était toi? Ou vous avez recruté quelqu'un qui vraiment... Parce que l'événementiel, c'est un métier.
Ouais, mais on en a fait quelques-uns. On n'a pas fait tant que ça des trucs nous-mêmes de A à Z. Okay. Parce qu'il faut un chargé de prod, faut du monde. Mais tu vois, par exemple, là, ça, c'est un truc qu'on veut... accentuer là actuellement, relancer en tout cas, ce que avec toute la période qu'on a vécu de Covid, on fait moins d'events, on est moins en communion avec les gens, et là on veut relancer ça, ces moments là où je sais pas, on va faire une collab de fringues, on invite des gens, on fait la fête, ou bien on veut lancer une bouteille de vin, donc aux couleurs de roche, tu vois, mais on fait dégustation, on met de la musique, enfin. Mais lifestyle, comme tu disais tout à l'heure, c'est lifestyle et c'est notre mode de vie. Pourquoi le cacher?
Ça, c'est une vraie question. Je sais pas ce que t'en penses, Daz, mais parce que vendre du lifestyle, je comprends, tu vois, quand tu dis c'est notre mode de vie. Et en même temps, on sait que c'est un outil marketing de ouf aussi utilisé par toutes les marques, franchement. Et qui est pas forcément d'ailleurs ancré dans le réel, en fait. Et voir qui peut un peu saouler, tu vois, quand on te balance du lifestyle, tu dis vas-y, c'est bon, tu vois, arrête de nous faire croire. T'es là pour. T'es une entreprise, tu veux faire, tu vois, de l'argent.
Arrête de nous balancer du lifestyle. Par exemple, allons-y, allez.
De quoi?
C'est le moment d'énonce. À quelle marque tu penses?
Je pense que les marques de sport, Lacoste, Nike, Adidas, te vendent du lifestyle tout le temps.
Ah ouais?
Ouais. De ouf.
Ouais, moi, je trouvais pas. Je trouvais qu'ils vendaient de la performance surtout, mais.
Ah, pas c'est vrai que sur les événements de marque, un peu, il y a des trucs. Ouais. Mais là, on parle d'un label indépendant. Mmh. On n'est pas une multinationale. On passe nos vacances ensemble. On tourne ensemble. Donc, il y a quand même du concret.
Oui, c'est pas du
quoi.
Fake.
Ouais, il y a du concret. Et voilà, quand on vend du merch, c'est le staff qui vend. Enfin, il n'y a rien de calculé.
Ouais,
enfin,
vous ne montez pas, quoi.
Ouais, ouais. Mmh. Mais pour moi, ça, c'est juste. C'est ce qu'il faut faire, en tout cas. Si quelqu'un monte un label, Mais intègre ça à un peu ton environnement. Enfin, dans mon style en tout cas, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ça marche aussi parce que vous avez cette taille-là. Peut-être qu'effectivement, c'est ça. Comme le disait Salman, c'était un gros truc mais qu'essayer de faire ça.
Tu crois pas un après peu l'authenticité.
Ah, mais après, la preuve, c'est que ben, toutes les grosses marques, elles essayent de créer ça. Parce que c'est un truc, les gens ils se réfèrent à ça aussi. Tu vois, tu essaies de. En fait, ils essaient de capter un certain public, quoi, une certaine strate de gens.
Regarde Adidas quand ils veulent, ou Nike d'ailleurs, quand ils veulent s'adresser au rap, tu vois.
Ouais, mais je
le prends ils sont pas obligés de répondre au code, donc prendre des gens.
Je le prends pas comme un truc lifestyle au sens où, effectivement, moi j'écoute pas mal d'artistes où j'écoute pas que la musique qu'ils produisent. C'est vraiment le lifestyle qui va avec, c'est les ambiances, c'est. Et je retrouve pas forcément ça dès qu'il y a une multinationale derrière. En fait, t'es pas dupe, tu vois, tu te dis pas.
Non, mais en tout cas, tu vois, la multinationale, elle va te dire nous, notre marque, c'est pas rien. Regarde l'impact qu'elle a dans cette culture. Et puis nous, on a accompagné le mouvement depuis le début. Alors que c'est pas vrai, tu vois. Genre, en fait, c'est les gens qui se sont réappropriés.
Alors
les
que ça avait plus d'impact à l'époque, quand Nike, il filait une paire de pompes à Jordan et puis il avait une amende. Et bam, ça rentrait dans un truc d'interdit, etc. Ou même. Enfin les groupes de New York qui mettaient du Ralph Lauren par exemple pour essayer d'appartenir à un lifestyle
les low life.
Final, voilà les low life et ils ont en fait ils ont créé un style à part entière et bah bien sûr Ralph Lauren a sauté sur l'occasion bien sûr mais
après coup quand même hein.
Il leur a fallu du temps. On le voit avec Lacoste aussi c'est souvent
bah là Lacoste début, ça y est Lacoste cette année ils ont validé Arsenic alors qu'ils ont eu de la pub gratuite
mais ils ont un peu des problématiques avec moi Lasquale et
il y a eu ça aussi
avec Romeo Elvis et Lasquale c'est-à-dire que Lacoste ils ont littéralement Arsenic qui leur fait de la retape gratuite dans tous les quartiers de France ils les refusent en disant nous on n'a pas cette image là et le jour où ils se tournent au rap ils prennent deux gars qui ont des casseroles j'ai rigolé
pas de chance
mais ils ont essayé tu vois mais
c'est les mecs aux cheveux longs, le problème.
Qu'est-ce que t'en penses ? Pareil, dans cette continuité, là, un peu merch, enfin lifestyle, et le merch, je le lis un peu à ça, parce que donc, très vite, vous avez eu l'idée de faire de la sable, de le proposer sur un shop. Il y a même eu des grosses collabs. Il y a eu du Bombers avec Shot, tu vois, grosse marque. Il y a eu même la collab avec Uniqlo en 2019.
Shot, tu veux dire Scott ?
Alors, je crois qu'on dit Shot.
C'est Shot, ouais.
Ah ouais ?
J'ai appris ça en faisant la collab, je ne savais pas.
Ok. Ouais. Ok, alors moi j'ai.
On nous aurait menti.
J'ai un message par rapport à votre boutique, c'est bien de proposer des trucs. Pensez aux gens généreux en termes de gabarit, les gars.
Ah.
Mettez du double XL, assurez quoi. Parce qu'il y a plein de trucs où j'étais là, je fais, c'est cool, mais si je porte ça, ça va être un peu.
C'est vrai. C'est vrai, on y pensera, mais.
Faites un effort.
Des hommes de ta prestance, ton gabarit, il n'y en a pas des masses. Donc,
non, mais tu n'en fais pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut.
mais ouais, est-ce qu'il n'y a pas ce risque, tu vois, quand on collab avec Uniqlo, par exemple, de dire, on envoie le message, on a un gros truc fat et on bosse avec une énorme enseigne. Est-ce qu'on arrive quand même encore à le justifier d'un point de vue artistique, entre guillemets, parce que c'est quand même ça à la base, tu vois?
Ben, je sais pas moi.
Ou est-ce que tu assumes, tu dis, on a besoin d'argent pour faire fonctionner le truc et tu vois.
Moi,
voilà.
Je suis. Imaginons, je sais pas, il y a LeBron James qui me dit, je kiffe ton label. J'ai envie de faire un truc avec Watt. Je vais pas dire non.
Ouais, mais c'est un individu. C'est pas pareil.
Il est
une industrie, LeBron.
D'accord. Moi, je vais prendre Nike. Si Nike me contacte pour faire un truc, je dis pas non.
Ouais.
Je dis pas non. C'est un parti pris, hein. Mais moi, je suis. Ce que je te dis, si je suis entre l'underground et le populaire, mais je défends un truc assez proche du peuple, on va dire. Mais s'il y a l'opportunité de faire un truc avec une grosse boîte, faut
si ça te dénature pas toi, t'as aucune raison de refuser.
En fait, je garde mon identité, pas de souci. Après, bien sûr, on va faire attention, pas prendre une boîte qui a des grosses casseroles, ça c'est clair. Mais ça dessert pas le sujet, en fait.
On se dit pas parfois, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire de la musique ou d'accompagner les musiciens.
Bah en fait, je lançais du merch. Donc, si le merch, il attire l'œil de certaines marques et qui peuvent nous aider à avoir plus d'argent pour défendre des projets. Parce qu'en fait, la musique, le problème, c'est que t'as un artiste qui drive tout. Et après, le reste, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est des moyens de financement. Donc moi, je vais aller chercher de l'argent, en fait, c'est mon objectif. Trouver de l'argent pour financer des projets. Et j'ai pas peur d'aller voir des grandes marques qui ont de l'argent, en fait. C'est eux qui ont le pognon, donc Voilà.
Ouais, du moment que tu restes en contrôle sur,
sur l'image, et, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, ces marques ont compris parce que les marques, elles ont besoin de quoi, comme tu disais, elles ont besoin de lifestyle. Mmh. Donc nous, on leur offre du lifestyle parce qu'on est proche de cette chose-là, en fait. Et proche de la communauté, et c'est ce dont ils ont besoin. Et nous, on est beaucoup plus crédibles que s'ils prennent une agence qui va dire, alors attends, là, c'est quoi le dénominateur commun? Donc ils ont des chapeaux, faut des mecs à chapeaux, faut des cannes, enfin, je sais pas. Tu vois, ils jouent au basket peut-être, tac, voilà, je mets un ballon. Non, nous on est là, on connaît notre truc, et je pense que c'est ça qui les attire. Après, je pense que si t'as un label ultra underground, la question se pose beaucoup plus. Nous on n'a pas la même économie, on est sur des artistes comme FKJ ou Darus ou Double techniquement parlant, c'est il faut dépenser de l'argent pour que les projets ils voient le jour, en fait.
Et même les labels underground, je pense que leur but, c'est pas de jamais vendre, tu vois. Enfin, il y a pas
Il y en a.
Ouais, mais du coup.
Il y en a, ils sont à la vie, à la mort, underground.
Mais c'est genre limite du gatekeeping, quoi. On est dans notre truc à nous, on veut pas partager. C'est,
bah, ouais. Mais pourquoi c'est un état d'esprit aussi. Ouais, hein.
Pourquoi vous enregistrez votre musique dans ce cas-là, les gars, et jouez là pour vous, en fait, tu vois.
Non, moi je peux comprendre. Enfin, c'est pas forcément le modèle vers lequel je tendrais si j'étais à leur
non,
place.
Non, mais tu sais, partir du principe que si tu es écouté par un grand nombre de personnes, c'est que t'as changé. Bah non, en fait, non, c'est juste qu'il y a des gens qui écoutent.
Là, on parlait plus sur le fait de faire de la collab. Enfin, tu vois, je peux entendre des gens qui disent, nous, notre métier, c'est de promouvoir ou de faire de la musique. Et pas d'aller réfléchir à une ligne de vêtements, tu vois.
On est plus
sans
en 19...
Non, non, mais, font, mais
bien sûr. On est plus dans les années 80, tu vois ce que je veux dire.
Mais c'est un modèle qui doit pas être celui qui s'impose à tout le monde, tu vois, en vrai. À mon sens. C'est cool pour ceux qui le font,
mais
tu vois.
Tous les artistes, aujourd'hui, mais en fait, tous les artistes sortent du merch.
Non, mais
tous.
Oui, mais on avait parlé d'ailleurs avec Big Wax, avec le modèle du
en fait, il faut se dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, tu gagnes plus autant d'argent avec la musique qu'à l'époque, en fait.
Donc il faut trouver
de l'argent.
Ça ne devrait pas être une obligation, à mon sens.
Ah oui.
Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est des gens qui le faire, c'est cool. Mais...
Toi, tu penses, alors ça, c'est une question qu'on peut te poser aussi. Est-ce que si la partie strictement musicale rapportait suffisamment pour te permettre de développer tes artistes, t'aurais pas du tout sorti de merch ou t'aurais même pas essayé de.
Le merch, vraiment sap, etc. Tu
non, le merch, c'est juste un. C'est un... En fait, pour moi, c'est. Iconique, et ça va avec la musique, enfin tous les grands groupes, c'est même les groupes de métal, ils avaient tous leurs t-shirts, les trucs en sortie de concert, enfin ils ont toujours dans l'histoire, les groupes, ils avaient du merch, quoi. Les grands groupes de rap, ils avaient tous leurs t-shirts à la sortie,
bien sûr.
Enfin c'est un truc qui légendaire, qui va avec. C'est pour moi, c'était logique de le faire, quoi.
Alors c'était une de mes questions, justement.
C'est un outil marketing aussi, hein, les fringues.
Ouais. Bah, en tout cas, les gens sont des panneaux publicitaires ambulants, c'est génial
du génie,
quand même.
Parce que c'est eux qui ont payé pour ça.
Mais oui.
Ils payent pour justement te servir de panneaux publicitaires, c'est incroyable.
C'est ça.
Et bah, ma question, justement, c'était. Parce qu'on a évoqué les débuts dans un premier temps. Ça reste un petit cercle. Même si vous vous entourez assez vite, etc. Là, on parle plus, on est 2017, 2018, 2019. J'imagine que d'une part, vous accueillez un peu plus d'artistes, que le staff s'étend, etc., que vous avez une résonance plus importante de manière générale, et que la question de l'ADA, la direction artistique, de qu'est-ce qu'on est, notre identité, quelle esthétique on renvoie, elle se pose d'une manière peut-être un peu différente au fur et à mesure du temps. En plus, il y a les velléités individuelles de chaque artiste. Bah mine de rien, là je vais aller dans le sens du côté merch, etc. C'est que en proposant de la sap, en proposant un univers graphique, on participe aussi à définir une identité qui parfois peut faire du lien, même si la musique commence à être un peu plus diverse, tu vois, par exemple. Enfin, je sais pas si c'était une réflexion que vous aviez.
Ah oui,
ou...
d'accord.
Oui, mais bien sûr, de toute façon, il y a un truc qui est fort, c'est que tu... Enfin, on va revenir sur le lifestyle, mais il y a une identité globale, en fait, je trouve... un état d'esprit, une DA, et ça va se refléter, en fait, après sur l'image de marque. En fait, moi, le label, je le vois comme une marque. Ouais. Pour moi, Roche, c'est pas qu'un label.
C'est ce que signifie le nom en anglais, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
Ouais, label, ouais. Ouais, c'est une étiquette.
C'est... Ouais. Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Ouais. En français, je sais pas, on le voit pas comme ça, mais c'est exactement ça. Ouais. Mais du coup, ouais, il y a Roche qui est la marque Roche, qui a son identité. Avant, on était un peu tous sous l'égide de cette marque, mais maintenant chaque artiste développe sa direction artistique, a son style particulier. Donc on est dans une pleine mutation, en fait, aujourd'hui, où on est en fait, faut que nous on soit plus fort sur notre image et qu'on la comprenne mieux, en fait.
Et ça, c'est une quête, du coup, un peu quotidienne de... C'est des questions que tu te poses régulièrement de...
Bah, en fait...
tu disais, par exemple, que tu parlais de l'avenir, ou encore cet après-midi, avec, ouais, avec ton équipe.
On le fait très souvent.
Ça. Ouais. Ouais, ouais, parce que, est-ce que même au niveau de ce qui fait votre identité, est-ce qu'il y aurait des possibilités, par exemple, de créer des sous-labels à Roche Music?
Ils l'ont fait, en l'occurrence, avec Mineral Records.
Ouais, ouais. Mineral Records... on a fait un sous-Roche, donc c'est pas ce qu'on voulait faire.
Ouais.
Mais
parce qu'à la base, c'était pour permettre d'explorer autre chose.
Ouais, c'était pour découvrir des petits artistes, développer des artistes et pour les un genre d'incubateur, on va dire.
Ouais.
Mais ultra chronophage et
ouais.
Et vous avez lâché l'affaire au final. Ouais. Je sais pas si ça existe encore, mais ouais.
Non, malheureusement, non. Mais c'était marrant, tu vois. On avait découvert des petits artistes anglais.
Et en fait, voilà. À un moment donné, vous êtes dit pourquoi est-ce qu'on les signe pas directement chez Roche plutôt que.
C'est ça.
Ouais.
C'est
ouais.
ça.
Ouais.
Mais, et puis on s'est dit aussi qu'on est trop gros pour prendre des artistes de zéro.
Ah ouais.
Ah,
il y a cette réflexion qui arrive.
Vous avez ce. Alors bah, que c'est ce que vous avez fait.
Bah, en fait, maintenant on est plus de 0-0, quoi. Parce qu'au début, on était vraiment. On créait l'image, on créait tout. Là, on veut des artistes qui soient un peu.
Qui ont déjà une identité.
Quelque chose, quand même, déjà.
Ouais.
Bah, on est à un statut où on peut se permettre. D'aller vers ce genre d'artiste, en fait.
C'est-à-dire que si vous tombez au hasard d'une écoute sur SoundCloud, restez une piste parce que bon, la plateforme elle est un peu moribonde, mais tu tombes sur un truc, tu vois que le mec en fait il a vraiment un style qui te parle à 200%, par contre il a 32 vues. Est-ce que tu te dis reviens dans 10 000 vues, reviens dans 100 000 vues, ou est-ce que tu te dis bon, ouais.
C'est une pratique qui est
régulière.
En fait,
le problème, c'est comme à l'époque on pouvait pas atteindre certains trucs, ben là.
Tu peux pas descendre trop.
Enfin, franchement, si c'est un truc de dingue, c'est le nouveau Michael Jackson, let's go. Ah ouais, oui, non, ouais. Mais je dis jamais non, tu vois. Je vais pas être aussi drastique, mais.
Et vous êtes approché. Vous êtes approché, il y a des gens qui vous envoient leur démo tape, leur machin.
Ouais. Ouais. Mais franchement, j'aime pas trop être démarché parce que souvent les gens ils savent pas où on veut aller.
Ouais.
En fait, on a un temps d'avance et eux ils nous voient comme il y a 4 ans.
Ouais.
Par contre, le seul groupe où on a bien démarché, qui nous ont démarché, où j'ai kiffé, en fait, on faisait un concours pendant le confinement pour découvrir des nouveaux artistes. Et on a découvert Astrone et La Blue, qui est un duo. Et c'était une des meilleures signatures qu'on ait faites comme ça, quoi. Mais c'est très rare. Ouais. Franchement, je trouve que les gens, ils sont en décalage par rapport
à... C'est vous qui aviez organisé le truc.
C'est
pas 100% spontané, en mode...
C'est ça. En tout cas, Astrone La Blue, allez écouter.
Tu veux penser que jusque-là, on peut écouter des trucs, hein, tu sais, on avait commencé tout à l'heure.
Femme du crépuscule.
Vas-y, hein.
Qui est un très bon morceau.
Chez Rush que ça chante en français.
Bah ouais, ça chante. Et en français, en plus.
Évolution, on évolue, on change.
Et donc ça a été signé en quelle année alors sur le label?
Ça c'est 2000... Oula, 19.
Le morceau...
2020. Ouais. 2020.
Okay.
Est-ce que justement dans cette période de développement pour vous, en fait, où ça commence à vraiment bien se passer, est-ce qu'il y a une réflexion, notamment de ton côté, particulière, pour se structurer plus, pour être plus entouré, pour trouver les bons interlocuteurs, pour se staffer plus, pour... T'as conscience de ça rapidement?
Ah, mais dès le début. Je sens que j'atteins mes limites très vite, quoi. Donc, il y a Thibaut qui me rejoint, avec l'autre collègue, Voldemort. et on monte comme ça... Et on recrute aussi des stagiaires. Et il y en a qui sort du lot. Mmh. Donc là, je pense à Guillaume Jallu, qui est avec nous, qui s'occupe de, des aides, donc les aides de l'État pour la fabrication des disques, qui nous aide aussi sur les éditions. Elia Turini, qui nous aide sur le juridique aujourd'hui, qui a commencé en stage chez nous, qu'on a formé en interne. Et arrive ce moment un peu de creux. Covid, galère financière, tac. Et là, il y a une prise de conscience sur plein de trucs comme les bilans, les prévisionnels. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on se staffe en comptabilité. Et on a recruté quelqu'un il y a un an, là, qui fait vraiment de la compta en interne, quoi. Mmh. Donc là, on se dit qu'on dépense plus d'argent dans tout ce qui est paperasse.
Support.
Et ouais, c'est ultra important. Et moi, c'était vraiment, je pense, le truc que j'ai le plus négligé. Au début, parce que c'était pas ma force, et puis au début, tu peux pas tout faire. Mmh. J'ai privilégié l'artistique, l'humain.
Ce qui est normal en vrai.
Ouais. Plutôt que
la partie support. Ouais.
C'est ça. Mais c'est une partie qui peut aussi te couler. Mmh. Et en fait, il aurait fallu que je sois plus balancé, mais je regrette rien. De toute façon, on en est où on en est. Mmh. Et on est encore vivant, donc on est là. Mais oui, effectivement, la partie comptable, elle est incroyablement importante. Et je l'ai trop négligée, je pense. Même si j'avais une bonne vision financière, tu vois, j'avais une bonne vision financière, mais en fait, tout ce qui est comptable, ça n'a rien à voir. Mmh. Tu vois, ils peuvent te sortir un bilan positif, et alors que tes comptes sont dans le rouge, tu comprends pas. Mais c'est aussi pour faire bonne figure auprès des banques. Mmh. S'il y a des investissements aussi, tu as besoin d'avoir un beau bilan. Mais des trucs que je comprenais pas, tu vois. Mais maintenant, je me suis mis dans on s'est mis dans un mindset à voir sur 2-3 ans en avance nos budgets, budgétiser. Et c'est obligatoire parce que sinon, bah, en fait, la boîte, elle coule, quoi.
Mmh. Et ça te mine pas en termes de créativité de devoir te projeter comme ça alors que.
Bah, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup délégué. Donc, mon rôle dans le label. Il est plus dans le day to day en fait. Donc, je sais que j'ai des gens qui s'occupent de ça très très bien. Mais c'est génial parce que moi je l'aurais jamais fait à leur niveau.
Mais donc là sur la partie administrative, t'as lâché les rênes quoi. T'as de l'oversight quand même. Tu vois les trucs de temps en temps. Etc.
Mais en fait, on fait des rendez-vous. On regarde le développement, les prévisionnels surtout. Mais il y a plein de trucs j'y touche plus. Tu vois, avant, je faisais les paiements.
Ouais. Ah ouais.
Les paiements, je faisais les factures. Mais en fait, quand ça commence à faire un gros niveau de facturation, etc., je peux plus m'en occuper. En fait, ce serait trop chronophage. Donc, il faut que quelqu'un s'en occupe dans l'équipe. Et du coup, c'est ça qu'on a internalisé une partie de la compta, quoi.
Et parce qu'il y a le staff. Mais tu disais que dans un premier temps, au début du label, c'était très partagé avec les autres artistes, les décisions. Est-ce que tout ce qui ensuite devient financier administratif, encore aujourd'hui, tu vas voir les artistes et tu dis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même notre bateau ensemble, les gars, ou il y a l'artistique, moi, on les embête pas avec ça.
Non. Mais même à l'époque, ils s'occupaient plus de l'image du label et des soirées, voilà. Aujourd'hui, ils s'occupent vraiment de leur projet. Nous, on est là, on a un deal avec eux. On taffe leur musique, on leur rend leur royauté, et voilà. Et ils n'ont plus leur mot à dire dans le label. Après, j'écoute toujours leurs avis, mais je pense que leur objectif numéro un aujourd'hui, c'est leur carrière plus que celle du label. Après, bien sûr, ils ont envie que le label fonctionne bien.
C'est-à-dire que le label, même si il s'est créé au moment où t'as signé les premiers artistes, eux, ils ont accepté de se dire « le label, c'est ton truc à toi, en vrai ».
Ah ouais,
bah, il n'y en a aucun qui s'est dit, bah non, on est un peu là-dedans ensemble.
Non. De toute façon, je faisais tout le taf, donc.
ouais, ok.
J'ai tout fait, quoi. Monter la boîte, trouver les financements, trouver le staff.
Il n'y a pas eu une personne dans tous tes artistes qui s'est réveillée en disant, mais attends, ça veut dire que je compte plus en vrai dans le.
Dans non, les parce décisions, que leur carrière, elle est tellement prenante.
Ouais.
En fait, il y a un choix à faire. En fait, il y en a, ils auraient pu se dire, attends, la musique, la mettre de côté, je vais faire un peu de label. Mais en fait, non, ils font tous la musique, c'est ça qui leur.
Heureusement qu'ils ont eu du succès alors. Sinon, ils t'auraient peut-être cassé les couilles derrière.
ou pas. Enfin, il y en a, je pense qu'ils auraient pu faire de très bons.
Label manager.
Ouais. Non, mais ils sont bien où ils sont, qu'ils y restent. Ok. Non, mais tu vois, moi aussi, aujourd'hui, là, je mets plus d'énergie dans la musique.
Ouais.
Par rapport à avant.
Justement, parce que t'as pu te dégager.
Je me dégage du temps et je peux développer une carrière musicale. Mmh. Parce que c'est vrai que la musique, en fait, c'est ultra chronophage, quoi. Tu peux pas passer 2 jours sans faire de musique, tu vas casser un truc. Enfin, puis l'inspiration, ça se travaille, en fait, ça se cultive. Donc, il faut être présent au studio. Mmh. Et voilà. Puis, pas avoir la tête dans des paperasses et tout. T'apprends trop la tête, les papiers. Hein. C'est...
Ouais, bah ouais, complètement, ouais.
Non, mais c'est pour ça que j'ai délégué, moi. Tu vois, je suis. Ouais. Ça me rappelle quand j'étais gamin, moi, ma daronne, elle me faisait les papiers. Elle faisait, viens voir. J'étais sur son bureau, je regardais comme ça. Puis, je faisais des galipettes 2 secondes après, tu vois.
Ouais.
Ça, c'est moi, avec les papiers. Mais quand il faut les faire. J'étais là, tu vois, je suis pas quelqu'un qui accumule les paplards à la maison.
T'as pas de phobie administrative.
Non, non, c'est là où j'étais bon, je pense. C'est là, c'est mon secret. J'arrive à faire les trucs, les envoyer, je m'organisais. C'était tout un bordel, hein. Je devais écrire étape par étape ce que je devais faire. Ouais. Après, quand j'ai appelé au téléphone, j'étais pas bon. Mais je l'ai fait par nécessité. Mais dès que j'ai pu déléguer, je l'ai délégué. C'était le premier truc que j'ai délégué.
T'as évoqué plusieurs fois des investisseurs. Parce que quand on connaît pas le milieu d'un, enfin, comment fonctionne un label, on se dit, OK, bon, tu produis de la musique, cette musique génère des revenus qui permettent d'être équilibré, voire de faire du bénéfice. Mmh. Et c'est un cercle comme ça, ça fonctionne comme ça. On n'imagine pas forcément que des gens injectent de l'argent de l'extérieur.
Ah non.
Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe?
Nous, ça ne nous est jamais arrivé.
Ouais.
Mais ça peut arriver.
Mais quand tu parles d'investisseurs, tu parles de quoi alors? Non, je dis une bêtise.
En fait, c'est qu'on disait que peut-être dans le futur, genre des investisseurs. Mm-hmm. Mais en fait, c'est une question qui s'est posée quand on était en galère financière. On a rencontré des gens avec qui on a des discussions. Enfin, c'est là où on a quand même un peu switché dans notre tête avec ces investisseurs qui nous ont parlé de choses, des bilans comptables, des choses comme ça. On a fait, ah ouais, d'accord, faut qu'on step up tout ça. Et en fait, c'est grâce à leurs conseils qu'on a remonter la boîte, mais oui, c'était une option. Okay. Mais en fait, le problème, c'est qu'après, ils prennent des parts dans ta boîte.
Et puis, du coup, tu perds en contrôle.
Tu peux perdre en contrôle, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen d'avoir des investisseurs qui regardent pas.
Oui.
Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas quelqu'un qui mette de l'argent, qui se barre et qui prenne ses dividendes. Tu vois, ça.
Ouais.
C'est pas où on veut quelqu'un qui nous aide à réaliser nos rêves, en fait.
Qui injecte un truc en plus que la. Enfin, pas que.
Voilà, pas que de l'argent. Parce qu'il y a des gens, ils font ça. Hein. Ils mettent. Quand t'es en galère, ils arrivent, paf. Par contre, tu suis nos règles. Et au final, toi, t'es un peu. C'est plus trop mon truc, quoi. Je suis obligé de rendre des comptes à quelqu'un. Il nous fait pas confiance, tu vois.
Est-ce que les gens qui investissent dans un label, qui prennent des parts, c'est forcément des acteurs de l'industrie musicale ou il peut y avoir un truc rien à voir, une marque de whisky qui se dit tiens, j'ai envie de mettre un peu de thune dans un label, ça peut arriver?
Non,
ça
je penserais plus à des particuliers peut-être qui ont un peu trop d'argent, qui cherchent à investir. Après, franchement, le milieu de la musique, c'est porteur, mais.
C'est pas là-dedans que tu veux des oseilles si tu veux des dividendes, quoi.
Ouais.
Bah si, c'était quand t'as le catalogue d'une major,
franchement, c'est le truc, c'est qu'il y a très peu de labels indépendants qui s'en sortent très bien. C'est pour ça. Je pense que investir dans la musique, ça peut être intéressant, mais en fait, il y a plein de projets, il faut y croire. Mais c'est ça l'importance du bilan, en fait, parce que les investisseurs, ils vont regarder ton bilan et ils vont voir en fait les prévisionnels, ils vont regarder tiens, sur tant d'années, je peux me faire tant. Donc d'où l'importance de faire des bilans.
Soigner le bilan.
Et ouais. Et puis avoir aussi, d'avoir beaucoup, beaucoup de projets. Parce que ça, c'est un capital, en fait. C'est tes possessions. On a des actifs, exactement, excuse-moi. Et d'avoir des actifs, c'est un truc qui intéresse les investisseurs. Et dans la musique, c'est les albums, les EP, la production, quand tu produis des projets en dehors de ton label, etc. Donc ça, c'est des choses que les investisseurs, ils cherchent. Nous, on a tout ça, les gars.
Message.
Il y a un truc que je voulais aborder aussi avec toi, parce que on parlait de 2017, 2018, 2019, et je trouvais qu'il y avait un truc assez symbolique 2017. C'est le FKJ qui bosse avec Masego. Et en fait, j'ai l'impression que dans votre histoire, il y a plusieurs moments où, en fait, c'est une façon de parler de YouTube, tout simplement, qui vous accompagne, parce que Dabble, c'est un cas aussi. T'as des artistes qui, en fait, leur communication passe aussi beaucoup par la vidéo sur Internet. Alors, c'est ultra valable avec FKJ, parce que sa pratique musicale, en fait, qui est beaucoup à base de live looping, multi-instrumentiste, etc., est impressionnante à voir, en fait, à l'image. Et qu'il est fort, tout simplement. Et donc, ce qui fait que ça a marché de ouf. Et je pense, évidemment, à cette vidéo avec Masego, où là, c'est monstrueux, tu vois, en termes de vues, j'imagine que ça a été important. Et que plein de gens ont découvert FKJ par ce médium, d'ailleurs. C'était un truc, il y avait une volonté de diffusion médiatique, de maîtriser, de faire du contenu, tout simplement. Ou
Après, c'est un truc de FKJ, il a toujours. En fait, il a fait, avant de faire son projet FKJ, il faisait des études de monteur son, monteur vidéo. Donc, il faisait preneur de son, monteur vidéo, pardon. J'ai dit, des professionnels dans la salle.
derrière,
mais ça va, il s'écoute pas.
du coup, bah, il avait ce truc déjà de faire ses vidéos. Pareil pour Dabble, qui bossait avec un mec qui s'appelle SJD. C'est des vidéos, donc il faisait ses montages, ses studio. Ouais. Donc, quand tu fais des instruments, c'est trop bien de voir comment le mec fait. Là, on suit beaucoup The Count, qui est un producteur de Toronto, qui est super fort.
Sur Insta, il fait ses drum kits aussi. Et tout.
Ouais. Bon, ça, c'est un business aussi.
Ah, ça, oui.
Mais c'est ultra porteur, surtout dans la période où on est, la vidéo, le support vidéo. Ouais. C'est puissant. Mais c'est
intégré au label, ou c'est un peu la velléité?
Non, c'est un truc qui vient des artistes.
C'est-à-dire que ça pourrait pas être un genre de rush vidéo, quoi.
Si, carrément. Mais là, du coup, tu vois, on rentre encore dans un autre développement d'un projet, donc tu deviens...
Oui, tu pars sur autre chose encore.
Ouais. Mais là, on avait lancé un Twitch, tiens, dédicace.
Mais oui, bien sûr.
Et en fait, on reçoit des producteurs, et ils font une prod pendant une heure ou deux, tu vois. Mm-hmm. Ça, c'est un truc qu'on a envie de développer, mais il y a tellement de trucs à faire dans la vidéo.
Et ouais, Salman.
Je sais.
Non, c'est quelque chose. Ouais, en tout cas, c'est les artistes qui, ça vient d'eux, hein, avant tout.
Et t'allais dire un truc sur Masego, sur le film.
Ah ouais, un son comme ça, ça arrive. C'est un vrai tube. Ouais. Ça, c'est un vrai tube planétaire, quoi.
On s'écoute un extrait.
Bah ouais, quand même.
Tu veux nous en dire quelques mots? Enfin, qu'est-ce que
c'est un super morceau.
Limite pour vous, ça a été, c'est le plus gros tube de Roche.
C'est alors, il est pas sorti chez Roche.
Ah.
Ouais. C'est Masego qui a sorti son album. Ouais. Mais pour nous, c'est...
C'est tout comme.
C'est un tube roche musicien, quoi.
Tado, on est d'accord?
C'est ça.
Tadao. Allez, c'est parti. Allez voir, vous connaissez probablement cette vidéo, mais si vous ne l'avez jamais vue, ils sont en studio, ils font ce morceau en direct avec du live looping, etc. C'est très très cool.
Ouais. Putain, et c'est du one shot, quoi.
Et c'est du one shot.
Et ils en ont fait 5 ou 6, donc il en reste. Mais est-ce que ça sortira? Je sais pas.
C'est laquelle a été gardée sur les 5? C'est la première?
Le numéro de la track? Non, je sais pas. Je
375 millions d'écoutes.
C'est Tado qu'ils ont fait plusieurs fois. Tu veux dire qu'il y a d'autres morceaux?
Ils ont fait d'autres morceaux.
Ah oui, j'ai pas compris.
Ouais, okay.
Donc il y a un potentiel là quand même.
Ouais, mais je crois qu'ils ont pris la meilleure. Hein. Je pense. J'espère pour eux.
Bon, en tout cas, là sur Spotify, on est à 300 millions d'écoutes par exemple.
C'est pas mal. C'est pas mal.
Et donc une connexion comme ça, elle se fait. Le label, il est même pas impliqué en fait.
Non. Après, Masego, par exemple, c'était un gars que nous on écoutait tous, quoi. Par exemple. Souvent rentrer de soirée assez tard avec FKJ, on s'allumait un petit truc magique, et on s'écoutait Masego, je faisais découvrir des sons, on allait dans mon ancien appart, et voilà, on écoutait du son à mort. Et voilà, c'est dans ces moments-là où tu fais « Ah tiens, cet artiste, je vais le contacter. » Et il était à Paris, donc ils sont allés au Red Bull Studio. Et ils ont fait ce morceau. Et voilà. Mais c'est... tu sais, les connexions, ça se fait... tu sais qu'en Angleterre, ils font payer ces trucs.
Ouais, des feats.
Les connexions en fait. Entre les gens. Ouais,
ah, les plugs.
Les plugs. Ouais. Les mecs qui pluguent, ils sont payés. C'est assez fou, non? En France, c'est pas du tout dans la culture. Par exemple, j'ai une anecdote, mais en fait, il y a la femme de FKJ qui s'appelle June.
Qui fait de la musique aussi. Donc.
Voilà, et donc, il y a un Anglais qui cherchait des remixes pour June. Donc, moi, je lui ai proposé FKJ, et un autre artiste s'appelle Plage 84. Et bah, bien sûr, FKJ l'a kiffé. Il a fait un remix pour June. Et quelques mois après, ils ont fait un festival au même endroit. Et ils sont sortis ensemble suite à ça, en fait. Et du coup, ils sont mariés, ils ont un enfant.
Ah ouais.
Voilà, ça part d'un remix.
Gratuit, du coup.
Et l'anglais m'a dit un jour, « My fille », je sais pas quoi, je fais « What ?»«
My fille
?» En plus, il y a eu mariage derrière, là il doit demander
beaucoup. Il est pas venu. Donc, il était là, j'allais te payer ce soir-là.
Dommage, c'est parti dans le cadeau des mariés.
Exactement, dans la bouffe aussi.
Je vous propose qu'on passe à la dernière partie sur l'actualité entre guillemets de Roche, sur comment on perdure aussi. Est-ce que 10 ans après, et sur les dernières années, disons après le Covid, tu me diras c'est relativement récent l'après Covid, est-ce qu'on commence à se dire vas-y, ça fait 10 ans qu'on fait de la musique, est-ce qu'il faut qu'on se renouvelle musicalement? Et c'est même une obligation, et genre t'as dit toutes les équipes, les gars là, vas-y, renouvellement. C'est plus individuel, tu vois.
En fait, nous, dans nos signatures, on va aller signer d'autres choses. Après, il y a certains artistes avec qui ça cale plus sur la musique. Il y en a qui s'adaptent. Enfin, la plupart, ils s'adaptent, ils changent. Ils vont dans un truc qui nous plaît toujours, bizarrement. Mais ouais, il y a une adaptation de fou depuis le début.
Genre c'est une pression pour les artistes de rester pertinent en fait, en quelque sorte. En tout cas, de pas devenir ringard ou...
Ça, c'est une bonne question, parce que c'est dur d'y répondre. En vrai, je pense qu'il y a un stress constant lié à ça. Mais après, quand t'as réussi à avoir t'as une base fan assez solide, et que tu commences à trouver un son, en fait. Quand t'arrives à avoir un son...
Ouais, mais du coup, le risque, c'est que...
T'es un peu hors du temps, en fait.
Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui se disent en fait, je suis aliéné avec le style de musique qui m'a amené ma fanbase et je peux pas faire autre chose, sinon ils vont dire ah, on veut pas ça.
Non, mais en fait, le truc, c'est que tu changes, mais tu changes pas drastiquement, donc tu perds pas les gens d'un coup, mais tu perds des gens, tu gagnes d'autres gens. En fait, c'est ça le truc, c'est que moment tu peux pas garder tout le monde
indéfini. Mais c'est ça qui est marrant,
il y a le syndrome Dylan, quoi. Il se met à l'électrique et là, c'est le scandale absolu, tu vois.
Ouais, bah ouais. Ouais. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que pour un label comme le vôtre, qui a eu son identité quasiment immédiatement musicale, sa couleur, son style, j'imagine que ça doit être un challenge de ouf de se dire il faut qu'on évolue, mais en gardant quand même ce qui fait qu'on est nous. Tu vois, sans devenir les mecs qu'on va inviter dans 30 ans pour refaire les morceaux de leur premier succès, tu vois. Enfin, parce que j'imagine que la notion de perdurer aussi, c'est...
Mais tu vois, pour moi, ça, c'est un problème qui arrive quand les mecs sont très, 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 très fat.
Ouais.
Et nous, on est...
Pas assez encore?
Non, je pense que, tu vois, un Johnny, là, s'il nous fait du... Ah non, mais pour moi, le meilleur exemple, c'est PNL, par exemple.
Ouais.
Tu vois, PNL, là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous envoyer, quoi.
Ouais.
C'est dur. Là, ils doivent se dire qu'est-ce qu'on envoie, c'est quoi le style, parce qu'ils sont tellement ancrés dans un truc fort. Alors que nous, j'ai l'impression qu'on est dans une évolution. Après, on a plein de contre-exemples. Un Double, il fait de la funk. Il fait de la funk depuis le début. Et puis lui, en fait, il vit selon les périodes. La funk est au top, elle est en bas, il continue. En fait,
et jamais vous iriez voir Double en lui disant « Bon, frère, la funk, on a l'impression que c'est fini. » Non.
Non, parce que en fait, on voit que tout est cyclique, en fait. Tout est cyclique. Ça sert à rien, en fait, de courir après la mode et le dernier son. Et je trouve que, du coup, créer une identité musicale, c'est le plus important. Le plus important, c'est ce qui te fait durer dans le temps, en fait. Peut-être que je dis de la merde.
Non.
Mais j'y crois fort.
Ça semble pertinent.
Moi, j'y crois fort. Et je le vois, en fait. Plus les gens, ils arrivent à s'assumer musicalement et moins ils suivent les modes, plus ils sont eux-mêmes. et puis dur.
Ouais, faut que ça, ouais.
Ça te permet de bien vivre, parce que je te l'ai dit en off, assez sincèrement, où j'avais l'impression que il y a quelques années en arrière, vous aviez une hype particulière, qu'on parlait beaucoup de vous, etc., et que je la ressentais un peu moins aujourd'hui. Est-ce que tu partages ce sentiment et comment tu vis ça et...
Ouais. Je suis pas, non, moi je suis dans un truc assez monotone, on va dire, où je vois pas trop ça. Ouais. Après, c'est vrai que des fois je sens un petit peu de hype, mais je vois que là la mode elle est pas forcément à ce qu'on fait. Mais je sens que ça revient. Ça revient progressivement et je sens que là en fait il y a une énergie. Enfin, je sais pas, je le sens. Les gens, les artistes, il y a un truc qu'on est plus proche, il y a un truc qui fait que on va revenir fort.
Ton proche qui arroche, les gars.
C'est beau, ça.
C'est moi, si vous voulez, des slogans publicitaires.
Et à côté de ça, moi aussi, j'ai ma carrière perso,
ouais.
Où j'ai mes moments up and down, tu vois. Donc au final, d'avoir tout ça, ça me permet, moi, d'être stable. Et de pas... Je me soucie pas trop de ça, en fait. L'important pour moi, c'est vraiment, financièrement, d'être stable. Après, le reste, ça me passe au-dessus. Et je pense que je fais bien de le faire parce que j'ai pas de stress lié à ça. Je me pose moins de questions. Voilà, si je peux payer mon loyer, bouffer, en fait, je suis bien. Tu vois, pour moi, c'est ça le plus important. Si la boîte tient aussi. C'est ça qui me tient à cœur. Mais les modes, elles me passent au-dessus, on va dire, si je peux dire. Mais ouais, vraiment. Parce que je pense vraiment, comme j'ai dit, le truc qui m'a le plus intéressé à la base, c'était d'avoir une culture musicale. Et je pense que c'est grâce à cette culture musicale que du coup, je me sens plus serein. Parce que du coup, je vois les époques, je vois les styles, trends, et je vois ce qui tient, ce qui tient pas. En fait, j'arrive souvent à dire, ce style-là, ça va pas durer longtemps.
Et ça marche ou pas?
Globalement, pour le Baile Funk,
ouais.
Je me rappelle quand c'est Diplo qui a envoyé le Baile Funk en Europe en 2006, un truc comme ça, qui a eu une hype de fou. C'est revenu en 2012-13. C'est retombé. Je disais, ça allait retomber. C'est retombé. Mmh. Et là, ça revient sous une forme ultra hybride qui est chamée. Où il mélange trap, techno, afrobeat, baile. Et ça revient. Et donc, c'est des trucs cycliques comme ça, tu vois.
Mais le baile funk au Brésil, c'est jamais retombé, par contre.
Ouais.
Ouais.
Clairement. C'est leur style là-bas.
Donc mais là, c'est vraiment le truc en Europe.
En Europe, t'as vu le... les clubs d'Europe, c'est un fonctionnement spécifique, quoi.
Ouais.
Et puis aussi, c'est vrai que tu pointes un truc important. C'est qu'on parle de localisation. Ouais. Et en fait, Roche, quand ça marche pas en France,
ça peut marcher.
Ça cartonne ailleurs. Au Mexique, ça cartonne au Japon, en Corée, aux US. C'est des fois, c'est vrai qu'on avait des gros downs en France. Et on va faire une tournée d'un mois aux US avec Darius. Sold out partout, en fait.
C'est chelou.
Mais ouais, mais parce qu'on vit dans un microcosme aussi en France où on voit pas ce qui se passe au Mexique. Enfin, il n'y a pas de news musicale, tu sais pas. Au Japon, t'en sais rien. Aux US, on a un peu plus de visibilité, mais.
C'est l'autocollant Big in Japan, ça, on peut.
Ça, c'est le top, ça.
C'est à quel moment dans l'histoire du label qu'il y a justement cette ouverture à l'international où vous commencez à voir que ça. Qu'il y a des écoutes, que vous allez organiser des tournées là-bas parce qu'il y a des écoutes, justement. C'est dès 2012 quasiment quand vous vous lancez ou ça arrive 2015, 2016, 2017 ou aujourd'hui même peut-être?
Le premier projet de cartel, en fait, j'ai décidé de bosser avec des RP anglais. C'était mon objectif numéro 1. Pas bosser avec des Français. Je vous aime, les gars, mais. Parce que je savais que ça allait être bossé qu'en France. Alors que les Anglais, ils ont un genre de réseau un peu. Ils ont un super réseau, les Anglais. Hein. C'est un truc de fou. Ils ont pavé le chemin, la route. C'est l'autoroute, pardon. Pour tous leurs artistes, en fait. Ça touche les US, beaucoup l'Asie. Et le Mexique, alors, c'est le seul ovni, je sais pas pourquoi au Mexique ça a pris de ouf. Parce que j'ai pas eu de stratégie particulière avec eux. Mais bon, bref, vraiment, les RP anglais, c'est eux qui nous ont ouvert des portes. Cartel a joué assez tôt en Angleterre. Après, on s'est plugué avec des Français en Asie qui étaient agents. Donc, on faisait des tournées là-bas. Donc, en plus du marketing qu'on avait là-bas, on faisait des tournées.
Quelle année, là, à peu près, pour ces tournées déjà
2013,
en Asie?
2013, je
dirais. Ah ouais, super première, tôt. Dans,
ouais, 2013, fin 2013, avec FKJ, on se retrouve en Indonésie.
Et vous avez la thune pour financer ces tournées?
Et en fait, c'est ça le secret, c'est que tu payes rien. Ils te payent l'avion. Mais on faisait des grosses dates pourries pour en faire des petites vraiment cool. Mmh. Tu vois, on faisait des trucs où ils payaient super bien. Ils payaient les vols et tout. En fait, c'était... Il y a un truc comme ça dans le touring qui est intéressant où toi tu dépenses pas d'argent et ça te fait de la visibilité. Comme les clubs qu'on avait à Paris, il se passait la même chose à l'étranger où on allait faire les clubs. Et voilà. FKJ il a commencé son live dans des clubs, tu vois. Parce que c'était notre ADN de base.
D'ailleurs, on parle un peu de renouvellement, etc. Tu me dis si c'est toujours d'actualité, mais à la fin du documentaire, tu te dis, c'est toi d'ailleurs qui le dis, qu'il y a peut-être un changement quand même, cette culture du club, vous allez la garder, mais que, ne serait-ce que parce que vous prenez de l'âge et vous avez peut-être envie d'un autre mode de vie, pas terminer à 6h du matin, à chaque fois que vous faites un concert, enfin une date, et bah de développer de plus en plus de concerts plus traditionnels dans des salles de concert, avec pourquoi pas des musiciens qui entourent vos artistes, etc.
J'ai été assez visionnaire, putain, parce que Zimmer fait un live, Double fait un live, FKJ, bon, il faisait déjà un live, donc ça c'est pas crayon, et étant live, piano, piano, et il y a qui encore qui fait des... bah j'ai un peu cité tout le monde, quoi. Donc la culture DJ chez Roche, elle est moins présente. Hein. Après, aujourd'hui, on a quand même recruté Didiane, qui est DJ, et qui cartonne. Moi, je suis toujours DJ, Cartel aussi. Darius aussi, mais il développe un live. Donc il y a un truc, on va vers le live, mais aussi ça va avec le fait que faire des tournées live, c'est quand même plus simple que des tournées DJ.
Ah ouais, parce que c'est marrant parce que j'aurais
c'est plus simple parce qu'il y a un meilleur réseau.
Ah, ça je veux bien l'entendre, mais par contre ça demande des fonds beaucoup plus importants.
C'est une autre économie, ouais. C'est une autre économie, il faut investir sur du la déco, sur du matos, sur des équipes, mais
la logistique pour transporter.
Mais tu touches pas les mêmes quand t'es DJ, t'es un peu seul, tu vois. Tu touches les clubs surtout. Tu touches pas les grandes salles, parce que faire une salle de concert en DJ, t'es au milieu tout seul, là.
C'est oui, ça. Faut même un super niveau show. Au niveau scéno, c'est pas ouf, quoi.
C'est pas ouf. Ouais. Faut un super show, ou bien un band. Donc aussi, ça va avec le fait que ben, chaque artiste y grossit, et ben, il a besoin de s'exprimer sur des plus grosses stages, et puis qu'il investit sur son live, et qu'il a besoin d'avoir de l'espace, etc. Donc.
Je me suis toujours dit, d'un regard extérieur, mais tu vas peut-être me dire que je me trompe, que justement l'économie des DJ qui tournent beaucoup, elle semble assez rentable pour les artistes, pour les DJ. J'ai l'impression qu'il y a de la thune de ouf là-dedans.
C'est le top. Il faut demander à Kaytranada qui aussi, il est énorme quand même, Kaytranada aujourd'hui, il est en DJ set. Ouais. Et franchement, tes dépenses, elles sont... Il n'y a pas de dépenses en fait. T'investis. Si tu aujourd'hui il a fait Coachella, il a fait un gros setup derrière lui, tu vois, gros écran, etc. Mais quand je compare avec Double par exemple là, qui fait un live avec bon, lui il a la folie des grandeurs, il a fait un truc de dingue, il a fait 6 musiciens sur scène, que de l'analogique, des lumières de dingue, des années bisextiles, tu vois. Enfin. C'est un autre délire. Mais c'est un autre. C'est une autre visée, en fait, tu vois.
Moi, quand je. Que ce soit dans le cadre d'un festival ou autre, un événement musical où il y a plusieurs artistes, quand je vois le nom d'un artiste que je fais ouais, et puis je vois après, entre parenthèses, DJ set, je t'avoue que je suis déçu. Hein,
ouais, souvent, ouais.
Alors, je peux aimer un DJ set, mais pas un artiste et que j'ai envie de découvrir en live. Tu vois, ce soir, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller en club. Il y a tel DJ, je l'adore, c'est trop bien, je vais adorer
encore,
le DJ.
Attends, mais il le précise.
Oui,
non, parce mais que moi vois, j'ai déjà fait des concerts où je me fais couiller dans la salle.
Tu vois Tame Impala, DJ set, bon. Ou Metronomy, souvent ça, Metronomy, DJ set. Bah, surtout quand ça vient d'un band. Tu vois, quand je parlais de Kaytranada, c'est un beatmaker, c'est un DJ. Ouais. Tu t'attends pas à ce qu'il fasse un live, donc c'est cool. Mais Double, aujourd'hui, maintenant qu'il a lancé son live, tu dis ah, on veut le live, quoi. Parce que live, c'est le truc qui. Et ça vaut le coup, franchement, les gens, si vous... Oui. Sa prochaine date, c'est en avril, je crois. Il va faire l'Olympia, donc soyez sur le qui-vive, ça va partir très vite, je pense.
Il y a un live dispo sur YouTube de Double, d'ailleurs.
Oui, une partie.
Ouais,
Et il n'a pas tout montré. Donc, allez-y.
J'ai... Oh, le teasing.
Ouais. Allez, non, je suis naze.
Allez-y.
Allez-y, c'est super.
Il y a un autre truc un peu qui est lié à la fois perdurer, etc. C'est, tu disais que bah, c'était aussi à travers le recrutement, tu vois, de nouvelles personnes, enfin, un nouveau roster, de nouveaux artistes, donc de les faire signer, etc. Je pense que ça participe au renouvellement. Et on a cité les principaux, en fait, ceux qui, les historiques qui sont là depuis le début, Dabble, Zimmer, FKJ, etc. Mais on a très peu parlé de Dune, Plage 84, Katusha. Mm-hmm. À une époque, il y avait eu des trucs sortis avec Maddie Juan aussi.
Ouais.
Est-ce que parfois, il y a ce truc un peu de dire, il y a le noyau central, et puis il y a d'autres gens, bah, il n'y a pas la peur qu'ils se disent, on me bosse moins, moi.
Non, bah, par exemple, Katusha, là, il est en studio avec Bambounou, il est en studio avec, avec Sam Tiba. Enfin, il est avec pas mal de gens de la scène. Après, il a un son assez spécifique, Katusha, tu vois. C'est moins proche de ce qu'on fait avec Rush, mais on bosse avec lui sur plein de sujets. C'est un super producteur et il est en studio constamment. Donc, il produit pour les autres aussi, tu vois. Donc, voilà, on bosse avec des gens de cette manière-là. C'est vrai qu'il y a des artistes avec qui on a bossé qui ont moins marché que les autres. Ah, c'est le jeu, en fait, c'est le jeu. On essaie de les développer, ça fonctionne pas. Puis des fois aussi, ça matche pas, tout simplement. Mais
c'est qui dit en général à ce moment-là, objectivement, que ça marche pas? C'est souvent le label plutôt qui va dire à l'artiste.
Des fois, on fait des rendez-vous, ça dépend en fait. Mais souvent, c'est avec les managers, on fait bon, là on suit pas. Ou... Voilà, c'est toujours chiant, mais
Oui, c'est le métier.
Après, des fois, c'est pas chiant parce que c'est de l'autre côté que c'est chiant. Enfin, mais ouais, après aussi, c'est que tu peux pas, ça peut pas marcher à chaque fois. C'est le jeu, hein, de faire des paris en fait.
Ouais. T'as des questions, Daz?
Mais non, c'est super super clair, hein, en vrai. C'est que il faut suivre. Enfin. C'est vraiment tous les trucs qu'on pense, justement, ce que tu racontes, c'est ce que moi je pensais, effectivement, de quand tu montes un label, que t'as la tête dans le guidon, que t'es d'abord sur la partie créa, et puis rapidement l'administratif te rattrape, et que tu dis, putain, il faut que je sécurise ça aussi si je veux continuer. Donc c'est. Mais par contre, c'est vrai que réussir à. Tu vois, tu parlais du Wu-Tang tout à l'heure. C'est un peu. Enfin, je trouve que il y a un peu la même vibe. C'est-à-dire que. Quand t'écoutes un groupe comme le Wu, les mecs ils sont 7 ou 8 rappeurs, et en fait tu te dis, les 7 ou 8 rappeurs c'est des brutasses, tu vois. Et c'est quand même incroyable d'avoir réussi à fédérer autant de talents au même moment, tu vois. Et c'est un peu la même chose avec ce qu'on entend depuis tout à l'heure.
En plus, le Wu-Tang, ils viennent tous de Staten Island,
ouais, c'est-à-dire que... Comme vous de Tours.
En fait, non mais, je fais je rapproche les trucs parce que en fait, les gens ils se disent, ah faut que je cherche je sais pas où...
Ouais.
En fait, souvent, t'as le talent juste
à côté
de
toi.
Faut faire confiance aux gens, les pousser. Et voilà, t'as pas besoin d'aller. Et malgré l'époque d'Internet, tu te dis, ah, je vais prendre lui. En fait, c'est plus fort de prendre des gens qui ont un peu le même background. Voilà. Au début,
ça,
en tout cas.
Ça solidifie les fondations, en fait. C'est ça.
Ouais.
Et après, ça te permet justement de te diversifier et d'aller chercher autre chose en étant toujours sûr que la base, elle bouge pas, quoi.
Puis après, nous, on a décidé de rester avec les artistes qu'on a. Voilà, même moi, malgré tout, des fois, je me retrouve plus dans Rush. Ça arrive.
Ouais. Parce
que moi, j'écoute plein de trucs. Je fais même mes DJ sets. Des fois, ils reflètent pas du tout Rush. Je joue des trucs anglais, du baile, la mapiano, la house, des trucs plus vénères. Enfin, j'écoute plein de trucs. Et des fois, j'ai l'impression que Rush, c'est que, on va dire, 20% de moi. Donc, des fois, je suis un peu catalogué sur ce truc. Mais je suis très fier de ce label, tu vois. Ça me représente à 2000%. Mais des fois, c'est vrai que j'ai envie de faire d'autres choses.
Ah, tu sens que toi, ça peut potentiellement te brider pour Césaire en tant qu'artiste solo, du coup?
Bah, je me pose des questions des fois, où est-ce que je veux aller musicalement et, mais ce que je sais, c'est que tu peux pas aller où tu veux. Tu peux pas tout faire.
Ouais.
Faut choisir un style. C'est ça, et c'est ce qu'on, j'en reviens là, c'est quoi mon style? Mon style, ça peut être aussi plusieurs choses, tu vois. D'arriver à catalyser ça, c'est super dur. Ça, je parle souvent de Kytra parce que lui, il le fait très bien. Tu sais, il est ce côté Jedi-la, hip-hop, ce côté très house de Chicago. Il mélange, et puis même des influences un peu, je pense, haïtiennes, sûrement, dans ses rythmiques. Et il mélange ça, c'est son truc. Bah, moi, je suis un peu dans cet état d'esprit en mode, bah, écoute, j'ai Rush, ce style Rush, je pense, qui a qui est ancré en moi.
Ouais.
Mais j'ai d'autres trucs. Comment je
hybride.
Fais une salade.
Mmh. Ah. T'es un manager pour ta carrière d'artiste ?
Ouais, depuis peu.
Parce que j'allais dire justement...
Tu manages, non, j'ai...
Non, mais tu vois, quand tu te poses des questions sur ton identité artistique, et comment elle s'intègre dans Roche éventuellement, etc. Enfin, tu vois, sur ta carrière vraiment solo, enfin, mmh. Césaire. Limite, je me dis, peut-être que parfois, tu sais, c'est bien de, limite, de signer en tant qu'artiste sur un autre label, peut-être que ton propre label, en fait, tu vois, limite, parce qu'ils vont te porter, te pousser, t'apporter une vision différente et tout, peut-être, tu vois.
Puis ça t'évite de parler avec ton manager en tant que boss du label par rapport à toi-même.
Après, la vérité, c'est que ce côté artistique, ça vient vraiment de l'artiste. En fait, c'est. Déjà, moi, j'aime pas trop l'idée que le label. Viennent s'intégrer là-dedans.
Non, mais ça peut accompagner. Il y a des artistes qui peuvent avoir besoin de ça, bénéficier de cet accompagnement, tu vois.
Ouais, mais moi, j'ai choisi des artistes qui ont un truc fort là-dedans, en fait. Et je pense que c'est l'ADN de l'artiste, en fait, c'est d'avoir ce truc-là, de faire son introspection et de se connaître un peu soi-même. C'est un truc, tu peux aiguiller les personnes, tu peux pas leur dicter la musique.
Ça, c'est vrai. Ouais, mais quand tu les prends au tout début, justement, ils sont en formation.
Il est plus au tout début, regarde-le.
Non, mais d'accord. Après, ce qui est bien au tout début, c'est que tu les prends parce que tu sens qu'il y a un potentiel. Mm. Après, t'essaies de le dévoiler, ce potentiel. Donc, en leur offrant la possibilité déjà de gagner de l'argent avec leur art, donc d'être stable financièrement et d'avoir le temps de réfléchir, c'est quoi mon style? Où est-ce que je vais? Mais je pense que tous les gars du label, ils ont eu des moments de creux. Peut-être pas tous, mais il y en a plein. Ils ont ça cogité sévère pour trouver l'identité.
Ouais,
tu vois.
Place, ouais.
Mais c'est beau de les voir évoluer jusqu'à dire « Ah, aujourd'hui, je suis content de mon son. Là, je suis bien là, tu vois. »
Et t'es à l'écoute de ça, du coup, en tant que là pour la partie label? Est-ce que tu sens des fois, enfin, est-ce que quand tu avais des artistes qui doutaient, tu voyais le truc et t'allais les épauler en mode on va t'aider ou.
Ou à l'inverse, si j'ai trouvé mon son et toi tu trouves que
c'est
de la merde.
Non, mais après, non, ça c'est pas ton son.
T'es viré. Non, j'ai non, mais en fait, le truc c'est que le meilleur moyen d'aider là-dessus, c'est d'aller écouter la musique, aller en concert, faire du son ensemble, parler de musique, s'inspirer.
Donc voilà. ça pour toi c'est un truc où il faut que tu t'es pas en mode tous ces labels où en fait il y a des mecs qui font de la musique et les execs qui sont même pas là et
non mais, puis les mecs les A&R qui arrivent oui il faut faire ça c'est pas le style mais je pense que c'est plus contre-productif. Il y a des artistes je sais qui étaient grave perdus, enfin des fois tu t'es en mode mais tu peux pas faire grand chose quoi. C'est trouve ton truc. Trouve ton son et puis.
Mais trouve-le avant la semaine prochaine quand même, parce qu'on a une date ou trouve, prends le temps.
Non, après, il faut qu'ils prennent le temps en fait. Nous, on n'a pas. Enfin, vu qu'on a une bonne équipe, on a le temps de caler des gens. Mais en vrai, pour moi, le plus important, c'est qu'ils trouvent leur son. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, dans l'équipe, ils ont tous un son maintenant très, très, très spécifique à eux. Mmh. Et t'arrives plus à faire le lien. Vraiment, autres, parce qu'avant, là, quand on écoutait les premiers morceaux, t'écoutes un Zimmer, puis un Cherokee, puis un Cartel, il y a un truc dans les rythmiques, dans les trucs de tempo, machin. Aujourd'hui, plus du tout. Ouais.
Ils sont partis dans des directions, ils ont suivi leur truc, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est ça qui me fait le plus plaisir, en tout cas.
Je pense que c'est un bel accomplissement, effectivement. Ouais. On a quand même pas mal parlé, sur les dernières minutes de ta carrière, toi aussi, Césaire. Il faut qu'on s'écoute un morceau, quand même. Il y a un truc dont t'es particulièrement fier, un de tes morceaux?
On pourrait s'écouter. C'est pas encore sorti. ça tease. Écoute, j'aime bien The Answer.
Ok.
Ouais. Ou sinon, You Came in Time. Avec Fabo et Jordani, j'aime bien. Allez, c'est parti, on va là-dessus.
Ouais, plutôt. Allez.
C'est parti.
Time to leave, time to go, time for us to shake off all these eyes and beat the rush to make it. each other comfortable enough. You can be in touch.
Très stylé.
C'est super doux. Hein.
Merci beaucoup.
C'est Jordan Lee qui chante.
Jordan Lee, le refrain, et Fabo, le couplet.
Le couplet.
Et Fabo, qui est un artiste R&B là, qui a sorti un album récemment. Très très chaud.
Qui est un artiste doux alors, du coup
Los Angeles.
Ok.
Ah. Ouais, ouais. Et ça, c'est une track que j'ai commencé avec mon collègue Airpoint, qui fait partie un peu de la famille, parce que c'est un de mes potes, et il a fait des mixtapes pour le label, etc. Mm-hmm. Et on fait commencer un son ensemble, basé sur un sample. Qu'on a travaillé ensuite avec Jordan Lee. Et voilà, c'est devenu ce.
You came in time.
Ce morceau.
Très, très cool. Très bon. J'aimerais juste, avant qu'on clôture et qu'on passe au reco pour terminer ce podcast, on sait que dans l'économie de l'industrie de la musique, la synchro a une part de plus en plus importante. Ce qu'on appelle la synchro, en fait, globalement, c'est donner des droits pour l'exploitation dans un cadre de publicité, de cinéma, de série, des choses comme ça. Mmh. Est-ce que Roche Music, ça donne à la synchro? Est-ce que c'est même une part de revenu non négligeable pour vous?
Ouais, ouais, clairement, clairement. Puis c'est même un truc qu'on veut développer encore plus. Ouais. Bah là, il y a un de mes sons que je voulais te faire jouer tout à l'heure, qui a fait Emily in Paris sur Netflix. Okay. Mmh. Donc ça, c'est pas que l'argent de la synchro, c'est qu'aussi après, les gens ils vont aller streamer la musique.
Ils écoutent et ils entendent et ils Shazam. Et...
Ouais.
Ouais.
Là, il y avait So Much To Me, je crois, de FKJ. Non, Line Together de FKJ qui a été synchronisé avec Apple. Donc Apple, c'est un peu le Saint Graal de la synchro.
Ouais.
Donc ça, c'est très cool.
Pour quel truc, tu sais? Quelle campagne?
Je me rappelle plus. En tout cas, je me rappelle, je suivais les playoffs NBA aux US et il y avait les pubs et je voyais le morceau d'FKJ. Donc là, je me disais, bon.
On a fait un truc.
Ça y est, il se passe quelque chose.
Là, c'est pas mal.
Ok.
C'est pas mal. Mais voilà, on essaye de vraiment développer ça parce que c'est un outil de ouf financièrement. Et puis, en termes de visibilité aussi. Hein.
Donc, pub, série, film.
Ouais, pub, série, film.
Potentiellement d'autres trucs, genre du jeu vidéo, des choses comme ça.
Alors, est-ce qu'on a fait. Alors, moi, mon rêve serait de faire GTA, une radio de GTA.
Ah ouais.
Avec Roche.
Voilà.
Là, maintenant que j'ai dit ça, il n'y a plus rien qui m'excite. Quoi. Je suis au maximum de l'excitation.
J'étais à 6.
Ouais, ce serait fou. Franchement, là, je prendrais juste une caisse, je ferais le tour de la ville.
Roche FM.
Et là, voilà, Roche FM. Ce serait génial. Si vous m'entendez.
Rockstar, si Rockstar, tu nous écoutes.
Ils regardent, ils écoutent DLT très régulièrement. Ouais. T'avais une question d'assurance.
Ouais, quand tu parlais justement de on se retrouve en studio, on écoute les sons les uns des autres, on travaille ensemble, etc. Justement, la question c'était, vous avez un local pour ça ou c'est chacun qui compose dans son coin et vous regroupez pour des sessions?
En fait, à un moment, on a loué un studio, et l'ancien studio d'Headbanger,
ouais.
Comme de par hasard, dans le 18e, dans le fin fond du 18. Et c'est vrai que c'était un peu l'endroit, le repère, quoi. Je sais qu'il y a 2-3 artistes qui dormaient la nuit dans le canapé lit qu'on a failli brûler tellement c'était l'enfer. Mais là-bas, c'était un lieu incroyable parce qu'on faisait... On avait tous des petits apparts. Du coup, les samedis soirs, on mettait les platines et puis on allait faire des teufs, en fait, dedans. Donc on mettait le son à fond... après on faisait des sessions studio, on a fait donc la première compilation, on a fait des duos d'artistes et qu'on a fait dans ce studio. Aujourd'hui on a gardé ce truc de studio, mais au final il y en a un qui habite à Tours, un à Bruxelles, un aux Philippines. C'est dur de réunir tout le monde, mais sur la compile là qu'on a, on a pas mal de la prochaine compile pour les 10 ans, on a vraiment réussi à avoir des beaux trios. Ce qu'on n'avait pas avant, ce qu'on a fait, on va faire des camps maintenant. Donc on loue un studio à la campagne, on y va à trois, on fait du son toute la journée. Là, il y a FKJ qui est venu, qui a fait un Red Bull avec Red Bull Studio avec Crayon. Dabeul a son studio en Belgique, donc les gars ils vont en Belgique faire du son avec lui. On s'arrange. Moi, je fais beaucoup de son avec Cartel quand je rentre à Tours. Il y a encore un.
Il y a quand même des sessions.
On a perdu pas mal d'énergie aussi avec ce truc. Avant, on était tous à Paname.
Mais aujourd'hui, tout le monde est parti.
Mais voilà, on essaye de cultiver ça encore, mais c'est dur quand les gens sont pas là.
Mais la norme, c'est plutôt chacun prod de son côté, fait appel à son ingé son, l'équipe avec qui il a l'habitude de travailler, ou c'est, il y a quand même l'ingé son maison Roche.
Non, non, même pas. C'est on est notre propre ingé son en fait. Hein. Okay. C'est, on branche les trucs.
C'est pas masterisé, mixé par des gens extérieurs.
Ça dépend des artistes, hein. Ouais. Mais globalement non. Ouais. Aujourd'hui, en fait, le mix et le mastering fait tellement partie. Enfin, le mastering c'est autre chose, mais le mix fait tellement partie du
l'aspect artistique.
Du son, que c'est un truc qu'on fait nous-mêmes. On essaye en tout cas de le faire au maximum.
Oui, mais c'est-à-dire que, par exemple, Dabble, il envoie un morceau, il est remixé par Roche ou pas ?
Non.
On prend.
Touche à rien.
Ouais, d'accord.
Il l'envoie, on prend tel quel, ouais.
Il n'y a pas un preset mix.
Non, on n'a pas. En fait, nous, on n'a pas ce truc un peu à l'américaine d'un studio avec plein d'ingé, des icos et tout. Enfin, chaque artiste est indépendant là-dessus. Mmh. Okay. Mais ça, ce serait un truc de fou d'avoir un endroit dédié à la musique aussi fat. Mais à Paris, c'est une tannée d'avoir un beau lieu. Faudrait aller très très loin à Meaux, par exemple. Mmh. Je sais pas pourquoi Meaux, mais...
77,
ça sonne
pour
bien.
Voir
comment il s'appelle cet homme de droite qui vient de
Jean-François Copé,
bien sûr,
les pains au chocolat bien sûr. Pendant le ramadan, bien sûr. Gros sujet, à mots.
Tu le rencontreras peut-être, tu le feras venir au studio.
Avec plaisir.
Bien sûr.
Tu sais, tu t'inspires de super musique, genre Bon Entendeur, et puis tu fais venir Jean-François Copé sur ta musique qui dit des choses. Ça peut être génial.
Ouais.
Ah, Gynéco, il l'a fait avec Bernard Tapie. Tout est possible.
Tout est possible. Non, après, ouais, Bon Entendeur, ils ont fait leur trou avec ça, avec les PDA et tout. Ouais, ouais.
On préférait que ça ne soit pas le cas.
Mauvaise vibe, là. Ouais.
Après, ce sont peut-être des gens très sympas, mais il y a eu un scandale à un moment, quand même, avec Bon Entendeur.
Moi, j'ai pas les refs, mais du coup.
Ouais, moi non plus. Ouais. Mais bon, moi, je les aime bien, c'est des bons gars.
Certainement.
Ouais.
Mais de là à ce que ça devienne si fat, j'ai pas compris, personnellement.
Ah non.
Ah, mais ils ont
pas d'élitisme. C'est une
belle stratégie, en fait. Une belle stratégie pour arriver à faire ça. Je pense qu'il y a un truc qu'ils ont bien mené, en tout cas.
Certainement.
Donc, je suis admiratif toujours des gens qui arrivent à sortir de don de ses ous et puis de réussir à se faire des tournées comme ça, internationales. C'est fort, quand même.
Oui. je propose qu'on passe tout de suite à la suite. Non, juste des personnes que je voulais mentionner quand même et qui illustrent, parce qu'on a commencé quasiment le podcast avec la question, est-ce que vous êtes un label de musique électronique ? Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Et je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, ce n'est clairement plus valable parce qu'il y a des noms très précis qui me viennent en tête, plus récents en fait. Je pense à Wayne Snow, avec qui vous travaillez, qui a ce côté beaucoup plus R&B, néo-soul, etc. Ouais. Alors avec du son électronique aussi. Mm-hmm. Mais, et puis surtout une Française, je pensais à Enchantée Julia. Mm. Alors qui a, il faut que tu... Juste rapidement, parce que c'est une artiste émergente qui commence à faire de plus en plus parler d'elle en France quand même.
Ouais.
Est-ce qu'elle est vraiment signée sur le label ? Parce que votre nom apparaît aux côtés d'un autre label d'ailleurs sur son tout dernier album. Comment ça se passe la collaboration avec Enchanté Julien ?
En fait, maintenant, on fait de la production de projets. Donc, on produit, on investit sur le produit, sur la musique et on accompagne l'artiste dans la production du disque. Mmh. Ensuite, on l'aide à trouver un label ou une distribution. Mais en fait, nous, on l'intègre pas à Roche. Parce qu'en fait, pour moi, Enchanté Julien, c'est un projet qui sort du cadre, en tout cas.
Ouais.
Mais qu'on apprécie, et en fait on voulait pas s'empêcher de bosser sur des projets qu'on aimait, quoi.
Mais concrètement, quand tu dis bosser dessus, c'est-à-dire c'est des gens de Roche qui bossent sur les prods, sur la composition,
la musique c'est géré par Enchanté Julien et son équipe.
Ouais.
Et par contre, nous on va l'aider à booker des studios, des sessions d'enregistrement. Okay. En fait, on va produire sur la création de la musique, quoi.
Okay.
Et après elle a son équipe pour le marketing, etc. Et voilà, c'est vraiment aider à créer le disque, donner des contacts, aider aussi à aller chercher les fameuses aides pour aider le projet à être plus ambitieux.
Le coup, vous intervenez pas sur l'artistique en vrai, du coup ?
Non. Mmh. C'est vraiment ça, c'est un truc que, on touche pas. Si on donne des contacts par un guitariste, tu vois, c'est des trucs qu'on peut faire, mais. Ils sont vraiment maîtres à bord là-dessus, quoi.
Et ça, c'est intéressant quand on est un label, ces modèles de coproduction, enfin de participer à des prods comme ça, sans que ce soit complètement mené intégralement par le label, notamment économiquement, par exemple, c'est intéressant.
Ouais. C'est intéressant pour nous de le faire. Et puis, Ouais, c'est qu'il y a, il y a tout un schmilblick avec les aides, en fait. Ouais. Qui fait que les aides de l'État, en fait, elles sont plus présentes pour les Français, en fait. Pour les chanteurs français, il y a un truc, il y a une histoire de quota, je pense. Mmh. Et donc, c'est plus simple pour nous d'accompagner des artistes grâce à ces aides, tu vois. Mmh. Donc, on essaie d'en profiter, de faire profiter à des artistes. Parce que pour les artistes en anglais, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Et puis surtout, je pense que l'objectif, c'est de bosser avec des artistes qu'on pourrait pas bosser à côté. Donc, peut-être aller dans d'autres styles, en fait.
Ouais.
Faire, tenter d'autres choses. Voilà. Et Enchanté Julia, c'est vraiment un plaisir parce qu'on adore sa musique. Et puis le R&B français n'est pas assez représenté.
Quoi, quoi qu'il se passe, là.
Ça commence.
Ouais.
Et Chanc, voilà, elle est dans un bon, une bonne ligne droite, Julia, en tout cas.
Est-ce que tu veux dire un dernier petit mot sur les trucs à venir chez Roche, le futur, est-ce que t'as envie de dire un truc?
Bah ouais, on a une belle année à venir là avec pas mal d'albums. Donc le cartel qui va être très cool. J'attends avec impatience. Dabeul, FKJ bossent sur un album. Moi j'ai mon projet qui va arriver aussi. Et on a un nouveau venu. Et je peux pas le dire.
Oh, il joue genre, tu vois, il s'amuse.
Mais il a collaboré.
D'ici deux semaines, c'est bon.
Il a collaboré avec nous sur des pochettes.
J'en dis pas plus.
Voilà.
Démerdez-vous.
Tu sais que l'émission sort dans deux semaines. Tu peux peut-être que dans deux semaines, ce sera officiel.
Non, ce sera pas officiel. Ce sera pas officiel. On va
dire. Je peux pas. Désolé, les gars.
Il a collaboré.
Mais c'est déjà beaucoup.
C'est pas Jean-François Copé, en tout cas, c'est sûr.
C'est non.
Non, très bien.
En tout cas, ceux qui savent savent.
Ceux qui savent, savent. Mmh. Et nous, on sait pas.
Nous, on sait pas.
Je vous le dirai en off.
Ok. Bon, un grand merci, Césaire, d'être venu nous voir.
Ouais, c'était très cool.
On termine, merci. C'est la tradition dans DLT, avec les recommandations.
Oh là.
On t'a pas prévenu d'ailleurs en avance.
Ah, ouais. C'est quoi ça? Oh, bah, ils devront en avoir deux, trois quand même.
Oui,
pense.
Je pense qu'il a ça sous le coude. Hein.
Ouais.
Bon, en gros, en fait, tu vois, chacun choisit un petit morceau à la fin qu'on a squatté récemment.
Quelle que soit l'époque, quel que soit le style.
Un intemporel pour toi, un classique, peu importe quoi. Un truc que t'as envie que les gens découvrent, tout simplement.
Ok. Voilà.
T'as une petite idée ou tu veux qu'on commence avec Daz? On peut-être réfléchir comme ça.
Je vais aller voir sur ma playlist.
Ouais, moi c'est un morceau des Twins avec un Z.
Oui.
Qui s'appelle Journey With Me. Les Twins, c'est un groupe de. Voilà. Ouais. C'est un groupe de jumeaux produit par Warren G. Donc l'album c'est Conversation, sorti en 95. Et moi le son en fait. C'est un album que j'écoute encore très régulièrement. Ok. Parce qu'en fait, ils passent archi bien, les mecs rappent bien, et le son, c'est du Warren G, donc c'est très propre.
C'est un de tes classiques ?
Ouais, complètement. Ouais, tout l'album.
I'm riding high with Warren G, Wayniacs in the back, G funkin' like we should be. So what's up, dude? Fresh back from the other side of the country, gone for 2 weeks, but then it seems like eternity. I must admit, Amsterdam is the shit. Got the bomb at the coffee shop, keep us niggas lit.
Came to speak, kick
my shit, get the dividends. Ball at the Pound Arena on the weekends. And think about the things people do. Stay true and watch out for that devil trying to get you. It's the trip, you gotta feel my combo. Need it on the record, shipping like pronto.
La basse, j'adore. Ah, la basse est belle.
Elle est bien mixée en avant.
Ouais. Bah, c'est Warren G, hein, ça. Et Dove Shack au refrain en plus.
Toujours efficace.
Très efficace. Très Warren efficace. G.
Ça te plaît, Césaire?
Ouais, de ouf. Moi, je suis fan. De Warren G.
C'est le G-Funk.
J'ai eu la chance de le voir.
Ok.
C'est vrai?
Ouais. Alors, un festival, c'est le festival latino. Donc, il n'y a vraiment que des latinos.
Ouais.
Il y avait tous les anciens Warren G, Snoop. Et même tous les trucs, genre Zapp and Roger.
Ah ouais. Mais il était décédé, Roger Troutman, déjà, non?
Oui, mais il a encore le band. Ouais. Zapp. Tous les mêmes caméos,
Un truc caméo.
De Boogie, comme ça, et puis la culture latino à fond.
Ouais.
Parce qu'en fait, s'il y a.
C'était où ça?
C'était à Los Angeles.
Ouais, bah normal.
Ouais. Okay. Et le festival, c'est n'importe quoi, tu vois. Les stars de l'époque, Exhibit.
Ouais. La culture latina là-bas, évidemment, ça fait partie de l'ADN, quoi. Donc.
Bah, il y a. Dabeul joue souvent pour un collectif qui s'appelle Funk Freaks.
Ouais.
Et ils sont à Santa Ana.
Ouais.
Et c'est vraiment full funk, et c'est Lowrider et tout.
Ouais, ouais. Bah, Warren G, on parle de Santa Ana dans cet album, ouais, d'ailleurs.
C'est un peu le. Pas le berceau, mais c'est le. c'est l'endroit de la funk à Los Angeles où vraiment il y a, c'est encore vivant quoi. Pourtant on se dit c'est un truc à l'ancienne.
Ouais non, c'est très
et
très
c'est
prégnant,
super fort quoi.
Parce que c'est vraiment dans l'ADN des gens là-bas de toute façon donc.
Ouais. Ouais.
Ah c'est beau.
Tribing. Alors j'enchaîne comme
oh
ça.
Bah, c'est un ancien celui aussi là.
Et oui, c'est un ancien.
Je l'ai vu.
Mais filles, tu l'as vu en live, c'est vrai?
Non, j'ai vu le Tiny Desk évidemment.
Ah, tu l'as vu?
Bah oui.
Bon, t'as peut-être vu ça aussi, Césaire. Là, il y a moins de 15 jours, NPR, tu sais, qui fait les Tiny Desk, a sorti un nouveau.
Juvenile.
Avec Juvenile, oui. Effectivement.
Ah oui.
Tu l'as vu le Tiny Desk avec Juvenile?
Je m'attendais pas.
Ah, c'est une tuerie.
Ah, il était fou.
Et en fait, je crois que c'est la première fois ou une des rares fois dans un Tiny Desk où vraiment la caméra elle passe dans le public parce que les gens.
C'est vrai qu'à la fin on voit en face. C'est vrai que c'est
pas bien parce que j'avais vu le studio Wu-Tang.
Ouais.
Qui est vraiment moins bien.
Bah,
et là,
mais
les instruments, les instruments refaits en live, c'est une dinguerie.
Parce que, juste en recontextualisant.
Il y a John Baptiste même qui.
Il y a John Baptiste qui est au Melodica, effectivement. Ouais. Donc, Juvenile, c'est un rappeur
de Nouvelle-Orléans.
Début 2000, Nouvelle-Orléans.
Fin 90, avec Cash Money, donc les Hot
Boys. Lil Wayne dans le groupe aussi.
Juvenile, Cash Money qui a matrixé Jay-Z à l'époque. Hein, ouais. Parce que Jay-Z les avait fait venir à New York tellement il était fan. Et d'ailleurs, quand t'écoutes Manny Fresh, sur le Tiny Desk, quand il rappe, des fois tu fais waouh, on dirait Jay-Z, et plus le contraire que je dirais, mais bon voilà, vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Mais ouais, donc très très fort Juvenile à la fin, il a arrêté au moment où le crunk a commencé à arriver avec les Lil Jon et compagnie, mais donc c'est Hot Boy, c'était avec Lil Wayne, avec Turk, donc c'est un très très gros artiste.
Il n'a pas connu le même destin que Lil Wayne, mais.
Si, parce qu'en fait, c'est ça qui est marrant, Lil Wayne il a explosé internationalement, et Cash Money, Young Money, ça arrivait derrière, mais je veux dire, Juvie, tous les Américains, ils savent qui c'est, bien sûr.
C'est
genre la mascotte.
C'est pas le destin de Lil Wayne.
Pas le destin de Lil Wayne, mais je veux dire, c'est une mascotte, le mec, tu vois.
En tout cas, moi, je connais pas très bien sa carrière, et j'ai été impressionné par ce live, par sa maîtrise vocale, du souffle, il est ultra intelligible, il rappe trop bien. Bref, c'est un extrait, là, du morceau qui s'appelle...
Back That Ass Up.
Oui, Back That Ass Up, exactement. Et il le reprend là, donc c'est du live, et je vous invite à aller regarder l'intégralité du Tiny Desk avec Juvenile. Ah oui, j'ai pas précisé, effectivement, il est qu'avec des instrumentistes.
C'est son tube...
Voilà, et en gros, effectivement, comme tu le disais, Césaire, il rejoue en fait avec presque en formation big band avec des mecs à la trompette, etc.
Ça rend pas, mais là ça rend vraiment trop bien.
C'est la Nouvelle-Orléans, ils ont la tradition de la fanfare.
Des big bands, c'est ça.
Et puis il y avait des éléments sonores en fait que même dans la prod originale, on retrouvait, mais là il y a juste un aspect plus acoustique entre guillemets qui est apporté et qui fonctionne.
Non, mais Juvenile, moi j'encourage les gens à réécouter. Il faut pas oublier que ces mecs-là, ils ont été ultra influents. Genre l'expression bling bling, si tu le dis, c'est à cause d'eux. C'est eux qui l'ont inventé, tu vois, le bling et tout ça. Les morceaux comme Project Beach et d'autres trucs où, en fait, ils racontent n'importe quoi, mais t'es obligé de suivre, en fait, parce que le mec est trop fort. Ils étaient trop forts, les Hot Boys, à l'époque, hein, vraiment.
Césaire, Taroko.
Sista.
Okay.
Sweet You Down. En fait, c'est le premier album de Missy Elliott. Et produit par Timbaland.
Bon,
au début, je voulais mettre un Joe Desi, mais. Et je pense que Joe Desi, il a touché un peu au prod. À l'époque, c'était dans le basement avec Gene Wine, tout ça. Et c'est un truc qui m'a bien influencé. Récemment, j'ai même acheté un synthé avec le son de Ride My Pony, tu vois.
Okay.
J'ai juste acheté le synthé pour avoir le son. On verra ce que j'en fais.
C'est un preset ?
C'est un preset.
De Pony de Gene Wine ?
Ouais.
Donc le...
J'ai trouvé le synthé. Ouais. Je fais, ok, on verra. Après, je vous ferai un son.
Ça serait marrant,
Je ferai un son d'un afrobeat avec le truc, on verra.
Bon, en tout cas, on est dans
vous l'aurez entendu ici, en tout cas.
Oui. Et c'est Sista, Sweat You Down.
Oh,
c'est quelle année ça?
Ça c'est 93.
Ouais.
C'est marrant, il n'y a pas de bas dans le mix. Il y a très peu de graves. Il est assez étonnant le mix.
Ouais.
Ok, et 94. Ouais.
94, désolé. T'étais pas loin. Et, c'est marrant, c'est qu'on reconnaît un peu un style, un peu la Teddy Riley avec les vocodeurs et tout. Mm. Et Timbaland et Teddy Riley viennent de la même ville, Virginia. Mm. Et je savais pas. Et puis.
Mais Pharrell Williams aussi, non?
Et ouais, ils viennent tous du même bled.
Virginia City, là. Non. Ouais, Virginia, non.
C'est Virginia, j'ai pas le.
Virginia Beach. Virginia Beach, quoi.
C'est un truc de ouf, le talent qu'il y avait là-bas.
Ah ouais, bah. Un peu comme chez Roche dès le départ, tout ça. Non, mais tu vois, c'est des endroits.
Tour City Beach.
C'est ça. Eh bien, les amis, je crois qu'on arrive à la fin de ce. Je pense qu'on a pas mal enregistré assez longuement.
On a fait 3h30 d'émission, je pense.
C'est pas loin, hein. Mais en même temps, c'est ce qu'il fallait pour parler de l'aventure Roche.
Ouais.
Je pense que c'était intéressant, un peu varié. On a abordé plusieurs points.
Carrément. Ouais, d'ouf. Super cool. Merci pour l'invite. Ouais. Ça fait grave plaisir de pouvoir parler du label. Et surtout pour les 10 ans. Ouais.
Enfin 11 du coup, mais
voire 12.
Pas le dire. Voir 12.
C'est les 10 ans.
Non, c'était vraiment très cool. On te remercie et puis suivez de toute façon le travail de Roche, les releases, etc. Il y a leur site internet, les réseaux sociaux. Et moi, je vous invite aussi à voir ce documentaire là sur YouTube pour découvrir un peu plus votre travail et puis les personnalités de chacun et tout. Ouais. On voit l'aventure de potes en fait. Mmh. C'est très agréable. Et puis, merci à la bouclette évidemment pour la technique, à François
Sam
pour
derrière,
montage.
François au montage, on est là. Merci Salman.
Avec plaisir Daz, merci à toi.
Merci
Thomas, évidemment.
Merci Thomas.
Attends, Césaire.
J'attends mon stand. 5 synthés.
Il va arriver. Tu as acheté chez Thomas.
Bien sûr, j'ai acheté chez Thomas. J'ai acheté hier.
Voilà, hier
et ça va arriver. J'ai hâte.
Voilà.
Les artistes.
Tout le monde achète chez Thomas. Parce que Thomas, c'est les meilleurs.
Ouais, c'est fou ça.
Tout le monde le sait.
Ouais.
Il nous paye en plus.
Ouais.
Bon, on se retrouve dans 15 jours, tout le monde. Ils seront probablement en vacances.
Ouais, nous aussi d'ailleurs, non?
Dans 15 jours, peut-être, je sais pas. Non, parce qu'il faut qu'on enregistre d'autres épisodes quand même.
Il va falloir que tu me cales une date rapidement.
C'est vrai, tu vas partir là?
Ah.
On va voir ce qu'on peut faire, mais j'aimerais bien que tu sais qu'il y en ait un pour la rentrée, puis peut-être un autre pour l'été qu'on les accompagne. On va pas les abandonner comme ça.
Oui, c'est vrai.
Tu trouveras du temps, j'en suis persuadé.
Oui, bah bien sûr. Ouais. Je suis freelance alors. Let's go.
À dans 15 jours, ciao.
Ciao, ciao.